present now is my past. So lost in a familiar place, while everybody's moving on, and I try to keep up with the pace, but I don't know what's going on. And it feels like I'm running backwards all the time. It feels like I am being left behind. Everybody seems to know where they are going to. I don't know if I should leave or stay, if I am already on my way, but it feels like I'm running backwards all the time. It feels like I am being left behind. It feels like I'm running backwards all the time. Yeah, it feels like I am being left behind. I do my best trying to make sense. Past and future tense. When I'm lost on the open sea, you're the wave that will carry me. Now you see, it feels like I'm running backwards all the time. And it feels like I am being left behind.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cet horaire? 7h du mat, 7h08 précisément à la fin de la musique. C'est une dinguerie. Nous sommes dans la quatrième dimension de l'info et du stream. Je suis tombé du lit. Non, en vrai, c'est juste une journée super chargée, agenda. Et j'enchaîne les rendez-vous toute la journée professionnelle, je tiens à préciser. Voilà, ça commence à... voilà, il faut que je quitte... il faut que je parte ici à 10h tout à l'heure. 10h pour un rendez-vous avec les amis Julien Telouk et Marcus pour l'émission Level 1. On va parler de jeux vidéo parce que maintenant je suis un gamer. J'ai rendez-vous après pour un déjeuner avec une responsable de France Télévisions qui est super sympa. J'enchaîne à quelle heure? Qu'est-ce que j'ai après? À 15h, toujours à France Télévisions pour parler de trucs, peut-être de Twitch. Voilà. Ouais, level 1. Et puis à 16h, j'ai encore un rendez-vous à France. Donc la journée, j'adore. En rendez-vous, voilà, pour mon émission, ça c'est cool. Et ben du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Est-ce qu'on ne va pas streamer? Est-ce qu'on va faire l'impasse? Est-ce qu'on va se faire la petite grasse mat jusqu'à 9h? Non, bien sûr que non. On met le réveil à 3h, voilà, à l'ancienne. Et puis on lit les journaux et on met la petite revue de presse express sur Instagram, sur TikTok, sur slash X Twitter, et puis on fait là. Alors non, du coup j'ai rebaptisé le rendez-vous, comme j'ai même plus la matinée Étienne, c'est super tôt. Eh bien c'est le petit déjeuner Étienne, parce que c'est le tien, c'est le petit déj. D'ailleurs désolé, j'ai pas amené les croissants. La boulangerie en bas était fermée, voilà. Alors du coup ça rime plus, c'est plus la matinée Étienne, la soirée Étienne, l'exposition Étienne, la rencontre Étienne. C'est le petit déjeuner Étienne. Mais d'ailleurs je remercie les modérateurs parce que ce sont des modos à qui j'ai annoncé ce stream matinal, qui m'ont proposé ce titre d'émission. Voilà, rendons à César ce qui est à César et au Modo ce qui est au Modo. Et ils sont formidables, exceptionnels. Merci Francis, merci Gandalf Listari, merci MMG7F, merci l'ami Nightbot d'être avec moi ce matin. Vous êtes là dès le matin. La tasse est tienne, ouais, le mug est tien, à l'infini après. Autrups, merci beaucoup pour le 25e mois d'abonnement. Tu es au maximum, on ne peut pas faire plus que 25 mois. Windook, comment vas-tu? Merci pour le Prime. Olistou, merci beaucoup pour ce 25e mois d'abonnement. Je fête mon abonnement avec le Covid. Bonjour tout le monde, nous dis-tu. Force à toi. Je me le suis attrapé moi-même il y a quelques semaines. Là, voilà, le petit Covid de la fin de l'été. Je l'ai passé à mon amoureuse qui l'a passé aux enfants. Tout va bien. Ça nous fait comme un rappel vaccinal, quoi. Heureusement qu'il n'y a pas eu trop de conséquences. Je crois que les deux petits ont eu des maux de ventre assez prononcés à la suite de cette infection au Covid. Malo d'abord, et puis là c'est Solal qui douille un petit peu. J'espère que ça va très vite passer. Je remercie Pabesque également, et Stone 2, et TTT de Kiwi à l'instant pour le 18e mois d'abonnement. C'est pas un nouveau format, c'est juste que j'avais moult rendez-vous pro dans la journée et je ne voulais pas zapper la matinée étienne, ou plutôt le petit déjeuner. Et tiens, je voulais un petit peu, on y va. Big Burger est en route pour le lycée. Bon début de journée à toi. J'ai fait. Il y a Nat qui était en train de regarder la matinale de France Info et du coup qui a arrêté. Je m'en veux un peu de faire concurrence à mes confrères et amis de la matinale de France Info. Tu me donneras l'adresse de ton dealer, Daniel Rizolet, très beau pseudo. Hop, il est là, il s'appelle Caféine. Alors c'est vrai que ces horaires-là, je les connais bien, puisque pendant 7 ans, je me suis levé à 2h du mat, donc 3h, on est quand même dans une énorme grasse matinée. Hein, je me suis réveillé, oh, on est bien. Merci le Fluo Class Sport pour le 6e mois d'abonnement. Oh, c'est trop mignon. Je suis ému. Mon amoureuse, mon épouse Hélène vient de sub cette chaîne pour le 16e mois consécutif, ce qui veut dire que chez les Étienne, on se lève tôt. Merci beaucoup ma puce, je suis super fier d'avoir réussi à faire ce live à 7h. Merci beaucoup, ça me touche, merci beaucoup. On a du mérite en ce moment, et Hélène a du mérite parce que, comme je vous le disais, Malo et Solal ont été un peu malades. Et Solal a encore un peu mal au ventre en ce moment et les nuits sont courtes et hachées. Voilà, Hélène, force à toi parce que je sais que ça a été compliqué cette nuit aussi et que tu t'es levé tôt également. Allez, je vous lis un petit peu. Je vous parle du grand quiz aussi, puisque Jiraya a annoncé hier soir que, avec Jean Massier, on faisait équipe team Étienne Massier pour participer au grand quiz. Il y a Rayou qui nous a étoile qui nous a lancé un défi, on verra ça tout à l'heure. Quel fanfaron celui-là. Alors du coup, il y en a qui sont contents. Voilà, Dionysos, par exemple, même en semaine, on va pouvoir t'écouter une heure maintenant, puisque Dionysos, tu dois te lever tôt. Alors ne vous y habituez pas trop, hein, l'horaire c'est plutôt 8h30, 8h45, 9h. Là, c'était juste pour ne pas vous rater aujourd'hui en raison de tous les rendez-vous. Donc on a avancé un petit peu le stream. Je vous lis un petit peu et puis on démarre. Rainbow, bonjour, c'est marrant, j'arrivais plus à dormir, mon inconscient savait que vous streamiez. Mieux que la notif. L'inconscient du viewer qui dit réveille-toi. C'est trop mignon. La chance sans déliant qui est au petit café depuis la Corse là. La France qui se lève tôt, Yann, exactement, c'est ça. Trop mignon. Oh, j'ai pas vu Hélène me dit qu'elle est avec Malo justement. Malo, t'es déjà debout ? Oh là là là. CE1 cette année pour Malo, c'est super, super sérieux. Je suis un papa comblé parce que j'ai des enfants qui adorent lire. Malo adore lire. Adore le commerce de des mots. Il est tout le temps avec un livre. J'adore. Hier après l'école, on est allé faire quelques achats, deux nouveaux livres, et puis très gentiment il a voulu qu'on achète deux aussi pour Solal, qui ne sait pas encore lire puisqu'il rentre en petite section, mais qui commence déjà à passer les pages, à regarder les illustrations. Voilà. Ça me rend tellement heureux, quoi. Malo, je te fais un gros bisou et je suis hyper fier de toi. Bravo. La littérature, les livres, les mots, c'est la vie. Voilà. T'as bien raison. Je dis bonjour aux Strasbourgeois, je dis bonjour aux Québécois, je dis bonjour aux habitants de Los Angeles. Donc, comme tout le monde sait, les Los Angeles soir, bien sûr. Qui nous regarde ce matin. Voilà. Et donc, pour qui c'est pas le matin, parfois c'est le soir. Trop mignon. Super. Bon, un mot de ce fanfaron d'étoiles. Allons voir ce qui se passe sur Twitter/X. Vous dites comme vous voulez, on s'en fout. Allons voir d'abord le compte de comment se llama l'ami Jiraya, hein, qui est déjà venu dans l'hebdo Étienne, voilà, que j'aime beaucoup, qui viendra peut-être dans Ça me plaît, partager sa passion pour un jeu vidéo, qui sait. Voilà donc le compte Twitter de Jiraya qui organise, je crois que c'est la semaine prochaine, c'est ça, voilà, le grand quiz, voilà, qui est, ça n'a pas marché mon truc, faut que je fasse ça. Et hop, voilà. Le grand quiz, voilà. Et donc tout au long de la semaine, d'ailleurs on va aller voir, hein, il a dévoilé le nom des invités. Regarde, donc là, il y a bon, le dernier duo d'invités, c'est Jean Massier et moi-même. Donc c'est jeudi prochain 20h sur la chaîne de Jiraya, donc, dont le nom est Jiraya le cochon, hein, c'est le nom de la chaîne. Voilà. Vous voyez, donc qui a, on va remonter un petit peu, il y a DFG et Mister MV. Il y a Étoile et Dwagby, joli duo j'avoue. Il y a Wax et LRB. Il y a qui encore? Il y a Code Jordan et Sunday, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, qui va revenir d'ailleurs. Xari et Domingo, donc PA est là. Voilà. Il y a qui encore? Il y a Marie Palot et Ken Bogart. J'ai eu le plaisir de les recevoir tous les deux sur diverses émissions. Maxil Dan, dont je peux vous annoncer qu'il va venir bientôt. Quoi, c'est demain? 14. Ah merde, c'est demain. Ah merde, c'est demain. J'espère que j'ai rien. C'est demain. Je suis bon, c'est demain en fait, c'est pas la semaine prochaine. Ça tombe bien, je l'avais marqué. Donc, ok. Eh, pas mal, hein. Voilà. Donc, voilà, et l'annonce de Jiraya, c'était le 29 août. Ouais, j'ai failli rater le rendez-vous en fait. Heureusement, j'en parle avec vous. Le grand quiz fait son grand retour, mais sur ma chaîne cette fois, nous dit Jiraya, une édition en duo de légende. Donc officiellement, je suis une légende, pour voir qui va dominer la culture. Culture, vous avez dit culture? Ami étoile, on se retrouve bientôt. Voilà, des pronostics de duo. Bon, voilà, donc du coup, la dernière annonce, c'est le dernier duo, c'est le dernier couple, c'est Papy Sam et Jean Massier. Alors, là-dessus, d'ailleurs, Jiraya à reposter, je vois l'ami étoile qui tweet à quelle heure, hein, à 10h13 hier soir, 22h13, qui tweet, je vais fumer même le présentateur de questions pour un champion et un book qui a fait 192 929 années d'études avec de la culture G dedans, avec mon frère Dwagby, ça, absolument personne n'est prêt. Il est tellement confiant. Qu'est-ce que c'est? Et, tu vois, et puis il enchaîne. Regardez, il y a Jiraya qui dit, mais c'est ça que je veux lire, mon Rayou. Et Rayou qui répond, juste envie de jouer et de m'amuser, Ludo, rien de plus terrifiant qu'un candidat qui vient pour prendre du plaisir. Il est tellement en mode fanfaron. Fanfaron va. D'ailleurs, je vais le retweeter ça aujourd'hui. Hein, tout à l'heure, quand je serai dans le taxi pour m'emmener à Level 1, je dirai ça. Petit fanfaron va. C'est fou ça. Hein? C'est dingue ça. Vous voulez pas rater ça. C'est demain soir, c'est sur la chaîne de... Tout le monde sait que c'est demain soir, bien sûr, c'est le 14. Hein, il n'y a que les ahuris qui pensent que c'est la semaine prochaine. Demain soir, le grand quiz animé par Jiraya. Voilà. Et ce choc. Ce choc étoile, Samuel Etienne. Voilà, il est à fond. Je vais me prendre une tolasse. Il est tellement motivé. Et puis en plus, le GP Explorer là, qu'il a super bien géré là, à mon avis, il a boosté. Il est intouchable, le Rayou. Ça va être chaud, ça va être chaud. Je vais tout donner. Tout donner. Voilà. Bon, vous serez là ? Voilà. Qu'est-ce que je... Rien de spécial, sinon. Voilà. Sinon... Ah oui, tiens, il y a les... l'hebdo Étienne, je vais de vendredi, donc 20h, on n'a pas changé l'horaire. Et je vous annonce la line-up aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous, je vais spoil 2-3 noms. Vous avez le, vous avez Alex Vizorek, l'humoriste de France Inter et qui est passé à RTL, qui sera avec nous pour sa deuxième fois. Il y aura, il y aura une nouvelle journaliste de La Croix, spécialisée des questions, notamment Internet numérique, vachement intéressante, qui a encore... il y a l'ami... ah, si, si, qui est drôle. Si, si, il a un bonnet parfois. Mais si je suis nul. Gabi, bien sûr, je sais que tu t'avais... Que ça se prononce Gabi. Attends, je vais vous dire, Parce que vous savez, c'est tôt là, c'est dur là. Alors attendez. Alors qui j'ai de vendredi. Donc, ok, Alex Vizorek, je vous l'ai dit. Thomas Desseur, l'humoriste. C'est plutôt une casquette d'ailleurs qu'il met souvent. D'ailleurs, Charlotte de Frémont, c'est la journaliste de La Croix, hein, dont c'est la première et je suis très content de soi. Et Eva Rock, qui est une amie qui travaille pour France Inter, pour France 5 notamment. Voilà, une très belle line-up. Et puis, oui, c'est la voix du Rewind sur Popcorn, c'est Thomas Desseur, effectivement. Et puis, dimanche, nouveau, ça me plaît. Avec un nouveau jeu qu'on va explorer et un nouvel invité. Voilà les amis pour une jolie semaine. Bon, c'est pas tout, on va faire une petite revue de presse puisque je suis là exceptionnellement à 7h pour pouvoir me libérer et vous libérer à 10h pour cause de multiples rendez-vous. Gabi, merci beaucoup pour ce 25e mois d'abonnement, tu es au maximum. On est prêts ? Oui, c'est ça, Alex Vizorek, il est aussi dans Télématin, tout à fait, tu as raison. Fing, Jules, tu as raison, il n'est pas que sur RTL, il s'est fait mercatoter, donc il est passé de France Inter à RTL, dans le petit pataquès, la petite polémique autour du passage le week-end de Charline Wunecker, mais il est effectivement le matin, ouais. Étoile, s'il se fait éliminer à tour 1 par Ken Bogard, on va rire. On l'a dit, Ken, il a une bonne culture générale. Chris, je ne suis plus sur France Info le matin, puisque après 7 ans de lever à 2h du matin, mon corps commençait à me dire stop. Voilà, donc j'adorais ce rendez-vous, j'adorais cette équipe, mais vraiment, il faut écouter le corps, il faut être raisonnable. Donc j'ai arrêté de me lever à 2h du matin. Résultat, je me suis levé à 3h du matin. Ce matin, ça n'a aucun sens. Voilà. Bon, en tout cas, je suis bien content que vous soyez si nombreux si tôt. Voilà. Je vous sens... je vous sens un petit peu moins réactif au clavier, un petit peu moins participant. Et je sais pourquoi. C'est parce que, un, c'est dur, parce qu'on vient de se réveiller. Deux, ben vous êtes en train de faire d'autres trucs, vous êtes en train de vous activer, de vous brosser les dents, de vous faire un café, de, qui sait, repasser une chemise, de vous occuper des enfants, voilà. Donc c'est bien normal, voilà. Donc eh ben, puisque c'est comme ça, je vais vous occuper aussi, moi je vais vous raconter les actus. Tu vois, Berry Blue me dit, oui je me prépare perso, tu es mon podcast du matin, je le savais. Non, c'est parce qu'on est en plein sommeil, me dit Wolfax, ok. Mais ça je le savais, je sais qu'il est tôt, je sais qu'on se prépare. C'est la confiture sur... Oui, bien sûr. Mais oui, il y a la confiture aussi. Coconut brain. C'est la confiture sur les bois. Les bois. Non, ne mettez pas de confiture sur vos bois. Vous n'êtes pas des élans, vous n'êtes pas des cerfs. C'est la confiture sur les doigts. Avec un petit-déj, confiture, et on tape pas sur le clavier. Bien sûr. Sinon, c'est dégueulasse. OK ? Merci, Dreamerk. Oh, Dreamerk, pour ce très gentil message. Trop gentil message. Dreamer qui dit, je ne suis pas fan de l'information, mais depuis la rentrée, je mange les lives dès que je peux. Merci Samuel, t'es au top. C'est très gentil. Et une pensée pour mon amoureuse Hélène et pour mon grand Malo qui nous regarde ce matin. Peut-être que Malo est toujours en train de nous écouter. En tout cas, il était là tout à l'heure. Ah, Fanfreluche, merci beaucoup pour le Prime. Je vois que il y a sur ma chaîne, c'est très drôle, 589 999 followers, encore 1 et on est à 590 000 followers et encore 10 000 et on est à 600 000 et je remercie notre DJ préféré Martin M2X, voilà, qui vient de prendre un 16e mois d'abonnement consécutif. Allez voir cette chaîne pour vous faire le plein de musique et de bonnes ondes. Martin_MDX. Ah, ça y est, 590 002 followers. Trop content. Bon, on se fait un petit sommaire, vous êtes prêts? Vous êtes prêts?
Yes.
On y va? Salut Martin. Et vous avez dans le chat la chaîne justement dont je vous parlais de Martin. Martin, pour faire le plein de musique et de bonne humeur. Allez, c'est parti. Un petit sommaire. Ceux qui n'ont, ce mercredi matin, très tôt, 7h25, quelques minutes, je vous donne l'essentiel de l'actu. Vous n'aurez pas tout, mais vous aurez l'essentiel de l'actu. Alors ça, c'est dramatique. On va parler notamment de la mort de cette jeune femme à Marseille. Sokaina, étudiante, 24 ans, tuée d'une balle perdue, victime collatérale du trafic de drogue à Marseille. C'est la troisième victime collatérale, le mot est affreux, mais c'est comme ça, du trafic de drogue à Marseille. Ils m'ont enlevé ma fille, qui dit ça, c'est la maman, c'est la mère de Sokaina qui s'est confiée aux Parisiens. Donc on se penchera sur ce phénomène, pourquoi tous ces morts à Marseille et pourquoi ces victimes innocentes, hein, c'est... Je vois des F qui arrivent dans le chat, vous avez bien raison. Hein, ces victimes collatérales, une mort si révoltante, elle était en train de travailler. On était au milieu de la nuit, entre dimanche et lundi. Sa maman raconte que c'était une étudiante extrêmement sérieuse, studieuse, au milieu de la nuit en train de travailler à son bureau, devant son ordinateur. Sa maman est sortie un instant pour faire un café. Elles étaient ensemble toutes les deux. Elle est revenue et sa fille était à terre. Elle a pris une balle. Je crois, en pleine tête. Alors, on va se pencher sur ce drame. On va rappeler les victimes précédentes et on va se poser, parce qu'à un moment, on est là aussi, ici pour ça, la question de comment. Comment on fait? Comment on lutte contre ce fléau qui est le trafic de drogue et ses victimes? Alors, Libération dénonce la politique répressive de l'actuel gouvernement du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, parce qu'il ne marche pas selon Libé, mais c'est la même politique qui est menée depuis des dizaines d'années en France. Donne la parole Libération à un spécialiste de ces questions-là. Oui, balle perdue en pleine tête. Eh ben oui, quel gars. Eh oui, parce qu'en fait, les trafiquants de drogue, je te le dirais tout à l'heure, ont arrosé la façade de l'immeuble. 23 tirs au moins. Voilà. Ils ont arrosé la façade. Voilà. Et à un moment, il y a une balle qui a traversé. Voilà. C'est fou. C'est comme ça. Donc, il y a un spécialiste qui dit non, la légalisation du cannabis que prônent certains, ça ne réglera rien, il y aura toujours le trafic, notamment de cocaïne qui est très présent. Bon, il dit c'est il n'y a pas de solution miracle. Le Figaro se penche également sur cette question, donc c'est notre gros dossier ce matin, c'est une façon de rendre hommage à cette victime et puis d'essayer d'avancer sur le comment, le pourquoi, le comment on arrive à lutter contre ce fléau. Et je vous préviens, il n'y a pas de réponse toute faite. Hier, vous m'avez interpellé quelques-uns dans le chat et vous aviez bien raison, en disant « Ah, mais Samuel, tu ne parles pas des inondations en Libye. On a beaucoup parlé de ce terrible tremblement de terre au Maroc et ce bilan qui ne cesse de s'alourdir. » Et hier, il n'y avait pas d'article encore dans la presse écrite du matin sur ces inondations en Libye. Les voici, et notamment un énorme dossier, un gros dossier dans Libération qui est extrêmement bien fait, qui parle notamment aussi de la situation très compliquée de ce pays, la Libye, qui a été en proie à la guerre pendant des années. Combien de morts? Vous voyez, il n'y a pas la réponse. Il n'y a pas la réponse parce qu'en fait, ce bilan est très indécis, flou. Voilà, et on parle d'au moins 2000 morts, mais c'est peut-être beaucoup, 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 beaucoup plus. On verra pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Notamment dans une ville, en fait. Hein. Je vous le résume, c'est la tempête Daniel, qui a provoqué des précipitations très fortes qui ont fait lâcher deux vieux barrages, en fait, qui ont inondé une localité. Ça a été dramatique, ça a été ultra violent. Ça s'est passé en pleine nuit, en plus les gens dormaient, donc on se penchera sur ce drame. Pierre, 631, merci beaucoup pour ce 7e mois d'abonnement. International toujours, parce que j'aime vous parler de ce qui se passe en France, mais aussi à l'étranger. Kim Jong-un, c'est qui? C'est le leader nord-coréen, dictateur, on pourrait dire dictateur nord-coréen, ça marche aussi, qui est l'invité surprise de la guerre en Ukraine, invité surprise précisément de Vladimir Poutine, qui n'a pas beaucoup, beaucoup d'alliés dans la guerre en Ukraine, et donc qui est obligé d'aller chercher du côté de régime, on va se le dire, un peu recommandable. C'est pas trop la fête quand même, notamment au niveau des libertés individuelles à Corée du Nord. Et donc effectivement, il y a une rencontre au sommet avec Kim Jong-un qui est arrivé dans son fameux train blindé en Russie. Russie pour un sommet. Pour se dire quoi ? Eh bien, on se penchera là-dessus. C'est un article du Parisien. Le Figaro, je vous en ai déjà parlé, souligne le trou d'air de l'économie allemande. Il y a une crise économique actuellement en Allemagne qui est plus forte que chez nous. D'ailleurs, la croissance allemande, alors ça c'est rarissime, la croissance allemande est plus faible que la croissance en France. Ça n'arrive pas souvent. Hein. On a longtemps parlé du modèle économique allemand. Quand le colosse trébuche, la grande panne du modèle allemand, le Figaro nous explique pourquoi ça ne va pas fort en Allemagne, pour des raisons économiques et politiques. Et puis le Parisien nous dit que, bon, je ne sais pas si ça va consoler les Allemands, mais qu'en match amical, hier, les joueurs allemands ont battu l'équipe de France de football 2-1. Match insipide, nous dit le Parisien. Mbappé ne jouait pas. Petite interrogation au niveau de son genou. Non, c'est pas un train blindé de la hype. C'est juste un train blindé. Voilà. Énormément d'humour de la part de Mani, mais je note le second degré. Ils ont pourtant l'air heureux sur les vidéos, les Nord-Coréens. Qu'a-t-a le match ? Alors moi, je ne l'ai pas vu, mais Lilou Rennes a vu le match. Il me dit que le match était effectivement pas terrible. Qu'est-ce que dit Parisien ? Insipide. Théo77, merci beaucoup pour le soutien. Oh, et le gentil message. C'est adorable. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Je devrais faire une alerte bonne nouvelle dans parce que j'ai une... Qu'est-ce que j'ai comme... Allons voir mes sons un peu bizarres. Enfin, je ne sais pas... Là, par exemple, j'ai, dans mes sons bizarres, j'ai ça.
Je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour.
Édouard Baird.
Ouais, c'est pas faux.
Bon, ça, c'est pas faux. Je pense que vous avez la ref, Kaamelott. J'ai ça. J'utilise très peu, celui-là.
Joyeux Noël, Félix.
Père Noël est une ordure. Gros coup de fer à repasser dans la gueule de Félix, alias Junio. Et puis, plus récemment, pour les bons résultats de la France, notamment en sport, j'ai un... Voilà. Sauf qu'en fait, il me faudrait aussi maintenant un nouveau petit bruit pour les bonnes nouvelles. Parce que j'essaie de vous trouver des bonnes nouvelles. Et notamment, j'en ai une très belle. Non, mais Edouard. Bien sûr que Edouard Baird, c'est dans Astérix. Mais là, ça. Non, juste, le c'est pas faux qu'on a entendu tout à l'heure, le c'est pas faux, c'est dans. C'est pas dans Astérix. Mais ce que tu as entendu au début, c'est Edouard Baird dans Astérix, bien sûr. Grand classique, évidemment. Le Hello Fellow Kids, il devrait être là aussi, Fanny, t'as raison. Et donc, bonne nouvelle, vous savez que la mucoviscidose est une maladie terrible hein, qui a condamné plein de jeunes Français et Françaises, puisqu'on peut parler que de la France, à une espérance de vie extrêmement réduite. Rappelez-vous du chanteur Grégory Lemarchal, par exemple. Voilà. Et il y a un médicament miracle apparu il y a quelques années, qui s'appelle le CAF Trio, hein, qui est très cher, mais qui est révolutionnaire, qui est quasi miraculeux pour plein de notamment de jeunes gens, un médicament qui efface en fait les symptômes de la mucoviscidose, les problèmes pulmonaires, c'est incroyable, c'est fou. La bonne nouvelle, c'est que eh bien, désormais, en France, on pourra donner ce médicament à partir de l'âge de 2 ans, puisqu'avant, c'était un peu plus tard. Donc là, ça va être remboursé dès l'âge de 2 ans. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour ces enfants, ces garçons, ces petites filles, et pour leur famille. Voilà. Irish Kobi connaît ce médicament, puisqu'il a un ami qui le prend, et c'est hallucinant. C'est incroyable. C'est incroyable. Petite méta, connaît également dans son entourage quelqu'un qui le prend. C'est incroyable, c'est-à-dire que les résultats interviennent parfois quelques heures, c'est fou, après la prise de ce médicament. Voilà. Quand la science, quand la médecine fait des miracles, bah oui, ça arrive, il faut le souligner. Alors, c'est une très bonne question de une girafe, est-ce que ça guérit de la maladie ? Non. C'est-à-dire que si tu arrêtes de prendre le médicament, la maladie revient. Voilà. Mais c'est déjà énorme, c'est déjà énorme. Et puis alors, bonne nouvelle mais dans un registre un peu moins majeur quand même pour les possesseurs d'iPhone, enfin, je pense hein, je ne suis pas un spécialiste, donc il y a eu les annonces des nouveautés Apple, notamment le dernier iPhone 15 qui abandonne sa connectique Lightning propre à Apple pour l'USB-C, voilà, qui est celui de l'ensemble des appareils disponibles sur le marché. Donc en gros on n'aura plus qu'un chargeur pour tous nos trucs, les tablettes, les téléphones, etc. Un peu quelles que soient les marques, c'est l'objectif. Alors, certains vont dire merci Apple, et Hazard01 dit non, merci l'Europe, bien sûr, puisque en fait c'était une obligation qui est venue de l'Europe. Hein. Parfois, certains me disent mais alors à quoi ça sert la politique, à quoi ça sert Les élections, à quoi ça sert l'Europe? Oh, bah ça sert notamment à ça. Voilà. Et là, du coup, Apple dit OK, d'accord, puisque c'est obligé. Hop, USB-C. Et puis, il y a une petite polémique concernant l'iPhone 12, voilà, avec le ministre chargé du numérique, le ministre français chargé du numérique, Jean-Noël Barrot, qui tape du poing sur la table et qui dit il y a un petit problème, enfin, il y a un gros problème avec les iPhone 12, voilà, en raison de la trop forte puissance des ondes émises par l'iPhone 12. Voilà, donc je suis allé vérifier ce matin quel était mon iPhone, et c'est un iPhone 12. Voilà, super. Et donc, j'apprends que, en fait, il dépasse la réglementation en France sur les émissions. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le DAS, là, le débit d'absorption spécifique qu'on voit parfois sur les, quand on achète un téléphone. La bonne nouvelle, c'est qu'a priori, Apple peut changer ça à distance. À distance, dit le Parisien, je suppose, avec une mise à jour. Voilà. Sauf que la mauvaise nouvelle, c'est que il ne l'a pas fait encore, voilà, et du coup le ministre est prêt à ordonner le rappel des iPhone 12 en circulation en disant la loi est la même pour tous. Alors l'article du Parisien nous dit ça dépasse, mais comme les normes sont très protectrices en France, je joue pas le petit passage. Voilà, en Europe d'ailleurs, encore une norme européenne. La norme européenne est 10 fois inférieure au niveau des émissions qui, selon les études scientifiques, peut entraîner des conséquences sur les utilisateurs. Donc en fait, il n'y a manifestement aucun risque pour la santé, mais la règle est la même pour tous, en gros, veut dire le gouvernement. C'est pas inintéressant. Ah, je pensais que c'était le dernier article, mais non, on parlera de ça aussi. Merci Equer22 pour le 4e mois d'abonnement. Bonne journée à toi. Ça dépend, ça dépasse, bien sûr. Père Noël est une ordure. Ça dépasse, mais bon, ça fait 3 ans qu'il est sorti, ça change quoi? Bah, ça change que moi, je téléphone toujours avec un iPhone 12, par exemple. Donc, si je veux pas me micro-ondéiser le cerveau, je veux bien qu'il fasse la petite modif, Apple. Je suis pas contre. Alors, peut-être que vous achetez le nouvel iPhone tous les ans, mais pas ici. 12, on est au 15, c'est ça? 12. Oui, par contre, bonne question. Ouais. C'est vrai que... comme le dit Fing Jules, ils ont réagi 3 ans en retard. Comment ça se fait qu'ils ne soient pas rendus compte plus tôt? Et dernier article, eh bien, c'est un éclairage de l'humanité sur les conditions de travail dans le secteur vidéoludique, comme on dit, du jeu vidéo en France. Voilà. Quelles sont les conditions de travail des salariés du secteur du jeu vidéo en France? Eh bien, elles ne sont pas bonnes du tout. Voilà, d'abord, c'est un milieu qui est encore très masculin, qui a du mal à se féminiser, composé d'hommes jeunes qui sont mal payés. Pourquoi jeunes? Parce qu'il y a un énorme turnover avec des salariés qui ne restent pas très longtemps dans ce secteur parce que sous prétexte que c'est un métier passion, eh bien, les employeurs abusent et les salaires ne sont pas élevés malgré le taux de qualification assez élevé de ces employés. Donc c'est un petit éclairage de l'humanité qui dit qu'il faudra peut-être un petit peu changer les choses, c'est pas cool. Puis un petit horoscope tout à l'heure. D'ici, ouais, il sera 9h30, quand on fera ça, 9h30, 10h. Voilà. Ah, pas mal. Maxime, Yann sont sur la piste de pourquoi l'Europe a réagi si tard, 3 ans après sortie de l'iPhone 12. Peut-être que ce sont les mises à jour d'Apple qui ont fait augmenter les émissions. Ah, peut-être. Salut Jupot de Vin, salut à tous, première fois que j'écoute la revue de presse en live, un régal. Bon, c'est vrai que c'est un horaire un peu particulier ce matin, je l'ai fait pour toi en fait. Jupot de Vin, c'est pour toi. Voilà. J'avais un pote en stage chez Ubisoft, il était payé au lance-pierre, me dit Twitch Clem Zingo, on va en parler d'ailleurs d'Ubisoft. Dans les milieux créatifs, c'est beaucoup comme ça, dit Fanny Steiner. Ouais, c'est dommage, c'est un côté un peu métier, passion. Oh, c'est pas vraiment un métier, c'est du plaisir, c'est une passion, hein. On va pas te payer en plus. Enfin, en tout cas, on va pas payer cher. Ça va être tout noir. Ce n'est pas ma caméra qui tombe en panne, c'est le pseudo de cette gentille personne qui vient d'acheter un 9e mois d'abonnement. Merci Bourville, qui est de retour. Merci Bourville 33, peut-être un bordelais. Merci pour ce prime. À moins que ce soit ton âge, à moins que ce soit ta pointure. 33, oui, c'est de tout petit pied quand même. Merci en tout cas. Oui, Pamparen, c'est exceptionnel. C'est parce que j'ai une journée full de rendez-vous. Il faut que je vous quitte à 10h, donc j'ai lancé un stream très tôt. Le réveil est sonné à 3h du mat. Voilà. Allez. Allez, ce teint. Allez, moi ça. Allez. Impeccable, hein. Je suis né pour me réveiller au milieu de la nuit, moi. Ça n'a aucun sens. Ouais, je vois que l'histoire des émissions de l'iPhone 12 vous inspire, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Ok. Ok, cool. Cool. Bon bah voilà pour le petit sommaire. Puis il y aura un petit horoscope bien sûr à la fin, mais pour ça il faut rester jusqu'au bout. Voilà, ça c'est pour le sommaire, vous avez l'essentiel de l'actu. Sachez que tous les matins, je voyais un taggle dans le chat, mais c'est un taggle sympa. C'est pour ça que j'ai bugué. Tous les matins, je poste juste avant cette matinée Étienne sur Twitch, sur TikTok, une revue de presse express qui dure 7 minutes. Je vous donne l'essentiel de l'actu, comme un sommaire en gros, quoi. Et sur Instagram, même une. Ah bah d'ailleurs, je me suis gouré, je pense, sur Insta. J'ai dit en 7 minutes, je suis con. Une revue de presse de 90 secondes. Voilà, je pense que j'ai dit 7 minutes parce que j'ai fait un copier-coller tout bête. Ouais, c'est ça, en 7 minutes. Débile. Voilà. Voilà. Donc, sachez que donc, sur Insta, tous les matins, une revue de presse de 90 secondes, c'est court 90 secondes, une revue de presse de 7 minutes sur TikTok et sur X sur Twitter, et puis la version longue, la vraie, la bonne, la grosse, la raclettisée, la saucissisée, la graillisée, la sucrisée, la complète, comment dire, la galette complète, la jambon fromage, elle est là. Voilà, la revue de presse de 2-3 heures, quoi. Torres, les gens qui arrivent à tenir leur journée en dormant 3-4 heures, ça reste un des plus grands mystères de la vie pour moi. Il n'y a pas de mystère en fait, Torres, c'est-à-dire que ça passe, notamment quand tu as un métier passion, mais à un moment, ça casse. Voilà, à un moment, le corps te dit hop, 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 hop. Petit malin, tu penses que tu as pu échapper à la police du sommeil? Pas du tout, regarde, tu es en train de te déglinguer et maintenant il faut que tu dormes. Voilà, donc ça passe, puis un jour ça casse. Donc moi j'ai arrêté de me lever à 2h du mat avant que ça casse. Il y a de femmes qui me posent une question qui n'a non pas à 7h42 du matin. Pourquoi les pommes de terre s'appellent pommes, me dit de femme, alors qu'il n'y a pas de pépins dedans? Samuel, c'est super important, je n'ai pas la réponse. Pommes, pépins. Jacques Chirac fut un grand spécialiste de pommes, mais il n'est plus là. Comment il s'appelait notre karatéka belge là? Jean-Claude Van Damme, pourrait te parler des pommes aussi, de la pectine, tout ça. Voilà. Lui, il est toujours là, donc n'hésite pas à appeler Jean-Claude Van Damme, mais je n'ai pas la réponse à cette question. L'eau, dans 20-30 ans, il n'y en a plus. Ça, c'est du Jean-Claude Van Damme. JSVD. J'ai la ref. Oui, on va essayer de remettre les podcasts sur Spotify. Ça prend beaucoup de temps, en fait, c'est con, mais ça, comme je fais beaucoup de choses tout seul, à une époque, je mettais tout ça sur Spotify, mais, notamment. Mais c'est beaucoup de temps. Voilà. Les hebdos Étienne vont revenir. Joe m'a promis de s'y mettre. Il m'a promis de poster toutes les hebdos Étienne sur Spotify et c'est vrai qu'idéalement il faudrait tout mettre, mais je manque un petit peu de temps. Comment ça, Pomme, c'est aussi la fille de Rayou? Qu'est-ce que c'est cette histoire, Adonis? Et toi, là, une fille, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je lis mot pour mot, hein, Adonis qui écrit: Pomme, c'est aussi la fille de Rayou. C'est-à-dire, et toi là, une fille? Quoi? Quoi? Combien? Dans QSMP, j'ai pas la ref. Dans un jeu vidéo? Dans Minecraft? Ok, d'accord. C'est très étrange. Et cette pomme est un œuf, me dit Mopif. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai rien compris. Mais elle a disparu. Il a plusieurs enfants cachés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et toi, la pondue une pomme, Qu'est-ce que c'est que... Je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Le matin, vous n'êtes pas frais. Bon, allez. Je retarde le moment où je vais devoir parler de ce drame, mais il faut bien y aller. Donc, je vais vous parler. C'est parti pour le petit déjeuner. Tiens, on lit les journaux ensemble, on en parle ensemble. Et d'abord, de ce drame, donc la mort de cette jeune femme, de cette étudiante de 24 ans qui n'avait rien demandé à personne, qui s'est pris une balle, voilà, tirée par des dealers à Marseille alors qu'elle était en train de réviser au beau milieu de la nuit. Ça passait dans la nuit de dimanche à lundi, et ça quasiment sous les yeux de sa maman. Sokaina, c'est cette jeune femme, donc ici en du Parisien, et on rend hommage à sa mémoire et on pense à sa famille ce matin. Ils m'ont enlevé ma fille. C'est une interview de la maman de Sokaina au Parisien, où elle dit ces mots. Leïla, la mère de la jeune femme abattue dimanche par une rafale d'armes de guerre pendant qu'elle révisait dans sa chambre, nous confie sa douleur. L'étudiante est une nouvelle victime des gangs qui s'affrontent à Marseille. Ça n'est pas la première victime. On va lire l'édito qui est à gauche, intitulé « Narcomicide » dans un instant. Faites-moi penser à en parler. Mais d'abord les faits, qu'est-ce qui s'est passé? À Marseille, Sokaina est donc la troisième victime collatérale d'une guerre des gangs devenue incontrôlable. Les habitants préfèrent parler d'assassinat plutôt que de victime collatérale et dénoncent une situation d'abandon. Mort si révoltante, hein, voilà une jeune femme dans la fleur de l'âge, une jeune femme qui avait un avenir qui s'ouvrait devant elle. Sa maman l'a décrit comme une étudiante très sérieuse. Et puis, évidemment, qu'il n'avait rien à voir avec le trafic de drogue, d'où ces mots, une mort si révoltante. Une immense douleur d'abord, écrit Marc Leroy, le correspondant à Marseille du Parisien. Une immense douleur d'abord, abyssale, celle d'une maman qui a perdu un enfant à qui elle donnait tout son amour, sacrifiait toute son énergie pour lui permettre de poursuivre ses études. « J'ai perdu ma fille, j'avais tout donné pour elle », résume-t-elle dans un soupir. La mère de Sokaina, cette jeune femme de 24 ans, mortellement blessée par une balle de Kalachnikov, alors qu'elle révisait ses cours dans sa chambre au cœur d'une cité de Marseille. Rafale, 23 tirs je crois. Rafale tirée très vraisemblablement par des dealers en mission d'intimidation. Immense douleur donc, accompagnée d'un cruel sentiment d'injustice. Car comment imaginer qu'une étudiante en droit, studieuse, puisse être en danger en travaillant tard le soir au troisième étage de son immeuble dans son appartement? C'est le milieu de la nuit, on est dans son appartement, on est en train de travailler et de réviser ses études. On ne soupçonne pas qu'on va prendre une balle de Kalachnikov. La procureure de la République de Marseille, Dominique Laurence, rappelle le bilan de la violence liée à la drogue depuis le début de l'année dans la région marseillaise. 93 fusillades, 90 pour la seule ville de Marseille, 43 morts, 109 blessés, et ce, uniquement depuis le début de cette année. À Saint-Is dimanche soir, donc un commando à scooter a tiré 23 fois en rafale, notamment en direction de la façade de cet immeuble, sans doute pour intimider un point de deal concurrent. Ces dealers veulent terroriser la population. On est chez nous, c'est notre territoire, c'est ce qu'ils veulent dire. Sokaina n'est pas mort d'une balle perdue, c'est un meurtre, dit un habitant de ce quartier. Depuis juillet dernier, les cités du sud et de l'est de Marseille connaissent une recrudescence de fusillades et au contrôle des points de stup de deal qui s'y trouvent. La mort tragique de Sokaina illustre la gravité de la situation à Marseille et rappelle, s'il en était besoin, l'urgence de trouver des solutions à ce fléau du trafic de drogue. Et on va en parler, et à sa litanie d'homicides. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les policiers, les magistrats, tous les acteurs sociaux sont plus que jamais au pied du mur. On va en parler avec Libération. On va en parler aussi avec le Figaro. Il y a une info que je cherche, que je veux absolument vous donner. Ah oui, bah justement, elle est dans l'édito du Parisien que je voulais vous lire. Je vous lis un petit peu, vous, dans le chat, et puis je vous lis l'éditorial de Jean-Baptiste Isaac à propos de ça. Les vrais responsables sont les consommateurs qui alimentent et financent cette guerre, dit Magolt. C'est un avis. Merci Jeski45 pour ce 15e mois d'abonnement. Je voulais vous lire cet édito qui rappelle notamment qu'il y a eu d'autres, j'aime pas cette expression, mais victimes collatérale de la violence liée au trafic de drogue à Marseille ces derniers temps. Narcomicide, qu'est-ce que c'est? C'est le titre de l'édito. La guerre perdue contre les dealers, c'était la une choc de notre journal Le Parisien le 5 septembre dernier. Je vous en avais parlé d'ailleurs de ces policiers qui venaient dire « on a perdu cette guerre contre les dealers, on a perdu cette guerre depuis bien longtemps, faute de moyens notamment ». Je vous avais lu ce dossier avec des policiers de terrain qui décrivaient des cités bastions quasiment impénétrables, contrôle implacable des trafiquants par l'argent, par la terreur, diagnostic contesté pourtant quelques jours plus tard dans les colonnes du journal par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui détaillait ce qu'il avait appelé sa bataille de Stalingrad menée par ses services contre les organisations criminelles, en affirmant, en réaffirmant que le seul moyen pour lutter contre le trafic de drogue, c'était la répression. Et il y a un débat là-dessus. L'effroyable mort de Sokaina, 24 ans, tué d'une balle perdue, une Kalachnikov rafalée sur son immeuble d'une cité du 10e arrondissement, marque une nouvelle étape dans cette guerre sanguinaire qui touche au hasard, comme Larbi, 63 ans par exemple, hein, ce monsieur qui le 24 avril a succombé d'une balle alors qu'il jouait aux cartes dans le 14e arrondissement de Marseille, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et puis le 21 août, c'est Fayed, 10 ans, je vous en avais parlé, qui s'est pris une balle dans une fusillade dans le quartier populaire du Pissevin, à Nîmes. Dominique Laurence, la procureure de la République de Marseille, vient de créer un nouveau mot, le terme de narcomicide, contraction de narco-banditisme et d'homicide, pour qualifier l'ensemble des morts qui sont liées au trafic de drogue. Les tueurs surarmés n'hésitent plus à arroser à l'aveugle les points de deal pour terroriser leurs rivaux et le quartier. Le mot narcomicide renvoie bien sûr à l'Amérique latine et à ses narcotrafiquants. Le Parisien se demande, est-ce qu'on en est arrivé là ? Il faudra, écrit Jean-Baptiste Isaac, donner un jour un nom à ces victimes collatérales de la terreur qui gangrènent certains quartiers, pas tous les quartiers. Là où les habitants asservis et humiliés par la loi des dealers ne vivent plus seulement dans la peur, mais craignent désormais de perdre leur vie. Vous pouvez étudier, travailler, réviser tranquillement au milieu de la nuit au troisième étage d'un immeuble et mourir à Marseille d'une balle perdue, tiré par un dealer de drogue. Voilà la réalité en France en 2023. C'est chaud. Voilà. Bon, y a l'émotion. On va aller au-delà de l'émotion. On va essayer de comprendre le comment, le pourquoi. Est-ce qu'il y a des solutions? Mais d'abord, je vous lis un petit peu. Certains évoquent comme Laurentine le film Bac Nord, hein, qui a illustré cette situation. Manet, sur le Maroc, j'en ai parlé très longuement hier. Je te conseille le replay, puisqu'on en reparlera peut-être dans les prochains jours, mais pas ce matin. Manet, tu as le replay de l'émission d'hier où on a beaucoup parlé du Maroc. On va parler de la Libye, là. Inondation, bilan extrêmement meurtrier. Pourquoi ne pas légaliser afin d'en finir avec ces dealers d'Oxy? On en parle très souvent ici, on va en reparler dans un instant. Alors, certains estiment que les vrais responsables sont les consommateurs qui créent la demande. Arson n'est pas d'accord. Hein. Les vrais responsables sont les gouvernements qui ne légalisent pas, qui restent dans leur mentalité ancienne et les abrutis prêts à se foutre dessus pour ça. Je n'ai pas la réponse, Yosemite Jake. Dans combien de temps pensez-vous que la bataille contre la drogue sera gagnée en France? Quand on voit ce que dit un spécialiste de la question que je vais vous lire dans un instant, on a l'impression que c'est pas pour tout de suite. Hein. Merci Néo pour le Samuel 2027, évidemment. Avec moi, tous les problèmes de la France seront réglés en un claquement de doigts en 2027. Non, oubliez ça. Quand un politique vous promet ça, ça s'appelle du populisme. On ne règle pas les problèmes d'un pays en un claquement de doigts, ni même en un quinquennat. Alors, quelle solution à ce qu'on vient de décrire? La répression? Libération dit non. Darmanin et son inefficace bataille contre la drogue, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Libération qui écrit « Malgré sa rhétorique martiale, le ministre de l'Intérieur se heurte à l'échec de ses politiques prohibitives. » C'est pas le seul. Hein. Tous les gouvernements qui sont succédés de la Ve République ont mis en place cette politique répressive contre le trafic de drogue. Alors que certains parlementaires ont demandé l'ouverture d'un débat sur la légalisation encadrée réglementée, le ministère refuse tout dialogue. Donc on a un journal, Libération, qui dit que la réponse répressive n'est pas la bonne réponse et qu'il faudrait plutôt aller sur la piste de la légalisation du cannabis. Et on va en parler dans un instant. D'abord, la position du ministre de l'Intérieur, qui a fait sien le concept de guerre contre la drogue qui, nous raconte Libération, a été forgé il y a plus de 50 ans par l'ancien président américain Nixon, et qui est devenu pour Libé le symbole de l'échec des politiques répressives contre le trafic de drogue. Darmanin qui l'a récemment décliné en comparant son approche de la lutte contre les stupes à la bataille de Stalingrad. Aux métaphores martiales s'ajoute un immodéré goût des chiffres, en témoigne la comptabilisation du nombre d'amendes forfaitaires délictuelles dressées pour les usagers de stupéfiants, plus de 106 000 amendes en 2021, 143 000 en 2022. On attend les prochains chiffres. Libération écrit que le consensus scientifique sur l'inefficacité de la plupart des politiques répressives existe depuis des années. La prohibition est une politique publique ancienne à propos de laquelle de nombreuses recherches ont été menées dans le monde, rappelle une chercheuse à l'INSERM, qui s'appelle Marie Geoffrey Roustide, et qui explique que les recherches scientifiques, sociologiques sur le sujet ont établi que cette lutte, cette répression n'atteignait pas son objectif premier, c'est-à-dire limiter la consommation, et que la peur de la sanction ne marchait pas, ne fonctionnait pas. Alors si la prohibition qu'on a connue aux États-Unis concernant l'alcool il y a très longtemps aussi, ça n'a pas marché d'ailleurs, si la prohibition n'enraye pas l'usage, les études ont aussi montré un risque sanitaire accru pour les consommateurs avec, dans le cas du cannabis, l'achat de produits coupés avec des substances qui parfois sont dangereuses. La prohibition complique aussi un discours rationnel sur les drogues, sur les risques réels, sur les bénéfices liés à certaines d'entre elles, explique la chercheuse de l'INSERM, par exemple au Canada, où le cannabis a été légalisé, où les ventes sont régulées par l'État. Eh bien, la conscience du risque chez les mineurs de la consommation de drogue a considérablement augmenté. Voilà. La consommation a baissé, le dialogue entre les parents et les enfants est plus simple, hein, autour d'un produit qui n'est plus interdit mais qui est encadré. Des campagnes de sensibilisation ont été financées par une partie des recettes des ventes, dit cette chercheuse. Donc, au Canada, nous dit cette chercheuse de l'INSERM, la légalisation du cannabis a eu des effets positifs. À cette connaissance scientifique rapportée par Libération, s'est rajouté en 2021 un rapport parlementaire, en France cette fois. Hein, rapport parlementaire présidé par Robin Reda, qui est un élu LR, par des rapporteurs Jean-Baptiste Moreau et Caroline Janvier, qui appartenaient à la majorité dans la dernière législature. Et ces élus de droite, écrit Libération, dressent eux aussi le constat de l'échec des politiques publiques prohibitionniste. Dans la partie consacrée au cannabis récréatif, par exemple, les parlementaires, dans ce rapport, taclaient paragraphe après paragraphe la police répressive menée depuis des décennies et perpétuée avec l'arrivée du président Macron au pouvoir. Je cite un extrait du rapport. La politique répressive française coûte cher, ça coûte cher, moyen policier, moyen judiciaire, mobilise avec celle les forces de l'ordre sans pour autant contribuer, même de manière marginale, à la résorption de l'usage et du trafic de cannabis. Donc une politique répressive qui n'a aucun résultat selon ce rapport. Alors les parlementaires, qu'est-ce qu'ils proposaient ? Eh bien on arrive à la légalisation. Les parlementaires proposaient d'ouvrir un débat public sur le sujet et de trouver un modèle français de légalisation réglementée, encadrée. Quand on régule et qu'on met en place une légalisation encadrée qui n'est pas une libéralisation de l'offre, cela permet de reprendre le contrôle d'une situation qui est actuellement gérée par qui ? Par les criminels. C'est ce que disait le rapport. Le travail des trois députés n'a pour l'heure eu aucun débouché politique. Le ministère de l'Intérieur a même refusé le dialogue, ne donnant pas suite à leurs propositions de rencontre. Hein, Gérald Darmanin a clairement dit que pour lui, cette piste de la dépénalisation, de la légalisation, c'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs, n'est pas une bonne piste. Voilà. Il y a une forme de démagogie, constate la députée réélue en 2022 et membre du groupe Renaissance qui était à l'origine de ce rapport. C'est plus simple de dire pour un politique qu'on règle le problème en l'interdisant. C'est une posture plus facile à adopter. Elle dit en gros, ça évite de réfléchir à l'invention d'un modèle français de légalisation du cannabis. Quelqu'un me disait tout à l'heure, ah, ce serait bien Sam si tu pouvais mettre tes streams en podcast, comme je le faisais à une époque sur Spotify. Sachez que tous mais Stream sont, peuvent se réécouter ou gratuitement sur, sur Twitch si vous êtes abonné, ou gratuitement sur YouTube si vous ne l'êtes pas. Là, par exemple, cette revue de presse sera postée sur YouTube. L'Hebdo Étienne est posté sur YouTube. Samplay est posté sur YouTube. Et vous pouvez l'écouter, du coup, notamment en audio. Je sais pas, quand vous allez courir ou quand vous faites des courses ou que sais-je. Tiens, j'ai un ami qui m'écrit de bon matin. Hop, il faut que je revienne vers lui dans la journée. Le travail. Donc voilà, n'hésitez pas, vous tapez VOD Samuel Etienne sur YouTube, vous avez toutes les émissions. C'est Mathieu qui gère ça et qui gère ça très très bien. Voilà. Du coup, je pense qu'on peut faire un petit podcast, quoi. Voilà. Hop. Alors la parole dans un instant à un spécialiste de cette question de droit. Vous allez voir que c'est intéressant d'ailleurs. Parce que le spécialiste interrogé par Libération n'est pas de l'avis de Libération. Voilà. Et donc ça montre l'intérêt de la démarche de Libé qui est capable d'entendre des gens qui ne sont pas d'accord avec, avec la ligne du journal, puisque Libération milite assez clairement pour la légalisation du cannabis. Hein. C'est ce qui ressort assez clairement de ces articles sur le sujet depuis des années déjà. Et donne la parole pourtant à un spécialiste qui dit ben, non, c'est pas forcément la solution. Vous allez voir ça. Je remercie Emidou avant. Emidou95 pour le crâne et Ezekielos pour le 11e mois d'abonnement. Merci de ton retour. Machine Linguist, j'avais pas vu. Merci beaucoup pour le 6e mois, c'est adorable. Et encore merci Jeski45. Je suis en train de vous lire. Oui, alors il y a des arguments pour, hein, comme le rappelle Pacorios, la légalisation du cannabis permettrait de contrôler la qualité des produits vendus. Vrai. De récupérer de l'impôt. Vrai. D'identifier les points de vente en nuisant au groupe de trafiquants. Bon, ça c'est déjà possible, mais ça marche pas. Mais oui, oui. Alors lisons l'interview de ce spécialiste qui s'appelle Michel Gandillon, qui est un expert associé auprès du département sécurité et défense du Conservatoire national des arts et métiers et à qui Libération a posé des questions. C'est parti. Salut Staline. C'est bizarre à dire, mais quelqu'un qui vient d'arriver dans le chat qui s'appelle Staline. Trotsky peut-être plus, non, je sais pas. Enfin bon. Pour Michel Gandillon, donc, à la réponse comment expliquer la flambée de violence actuelle, bien il répond « Sous réserve des spécificités de chaque dossier, ces règlements de compte s'inscrivent dans un cadre global, celui de l'explosion du marché des drogues depuis 20 ans, et notamment la rupture que constitue depuis une dizaine d'années la place grandissante de la cocaïne dans les trafics dans les cités. » Et justement, on va parler de la cocaïne. Alors justement, oui. En termes de rentabilité, pourquoi explosion de trafic de cocaïne ? Parce que la cocaïne permet de dégager des marges bien plus importantes que le cannabis, ce qui accentue les phénomènes de concurrence et in fine de violence. Alors comment sortir de cet engagement, de cet engrenage ? C'est la question qu'on se pose tous. Eh bien, ce spécialiste dit qu'il n'y a pas de solution miracle. Vous êtes très nombreux dans le chat, et on fait régulièrement des sondages sur ce sujet, à souhaiter la légalisation du cannabis en France, qui pourrait mettre fin à une partie importante du trafic et de la violence qui va avec. Eh bien, lui dit, il n'y a pas de solution miracle. La légalisation du cannabis, avancée par certains, ne réglera pas la question de la cocaïne, puisqu'il est hors de question de légaliser, bien sûr, le trafic de cocaïne en France, ni celle de l'inévitable marché noir qui émergera. Les premiers trafics dans les cités ont commencé à la fin des années 70. On est face à un phénomène vieux de plus de 40 ans que les pouvoirs publics ont laissé s'installer et prospérer au point de devenir de plus en plus difficile à maîtriser. Voilà. C'est troublant parce que certaines expériences internationales comme au Canada semblent réussies. Certains médias comme Libération pensent qu'effectivement c'est une bonne piste, la légalisation. Mais ce spécialiste dit non, parce que lui estime que la violence est plutôt liée au trafic de cocaïne. Quoi. Bon. Je vous lis là-dessus, votre avis. Et Yann, depuis tout à l'heure, je te vois, Yann, qui dit, mais peut-être qu'il faudra plutôt mettre l'accent sur la répression contre le trafic d'armes en France pour réduire, tu dis les risques, mais pour réduire surtout la violence. Pardon hein, d'être un peu pessimiste, mais si les pouvoirs publics depuis des décennies n'arrivent pas à mettre fin au trafic de drogue, je vois pas comment ils pourraient arriver à mettre fin au trafic d'armes, en fait, je veux dire, par définition extrêmement caché. Je pense que les enquêteurs, les équipes mobilisées contre le trafic de drogue sont également mobilisées contre le trafic d'armes, mais avec un succès jusqu'ici réduit, quoi. Alors, Pacorios, qui tout à l'heure évoquait plusieurs arguments pour la légalisation, ajoute « On autorise bien l'alcool qui est addictif, c'est vrai. La légalisation du cannabis permettrait de concentrer les efforts sur les drogues dures. » Peut-être, peut-être, peut-être. Merci Egon pour le message. Peut-être. 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 Voilà. Voilà où on en est du débat actuellement en France. Récemment, on en parlait... Et je vous disais que j'étais pessimiste. Hein. On en parlait dans l'hebdo Étienne, d'ailleurs pas plus tard que vendredi dernier avec nos invités. Je vous disais que, à titre personnel, je ne pensais pas que, à moyen terme, c'est-à-dire d'ici 5 ans, cette légalisation puisse être mise en place, puisque aujourd'hui, c'est un constat que je fais. Hein. Aucun responsable de politique de premier plan, voilà, chef de l'État, premier ministre, ministre, leader de l'opposition, chef d'un parti important. Ne met en avant cette solution, la légalisation du cannabis. Aucun, voilà. Alors l'un de mes invités, Hugo Boulanger, disait « Ah, mais c'est pas vrai, moi je reçois des députés qui... » Oui, bien sûr, il y a des élus, il y a des députés, il y a des élus locaux en région parisienne notamment qui ont signé des pétitions en ce sens. Mais hélas, dans un système politique comme celui de la Ve République, si vous n'avez pas... un politique de premier plan, voilà, un responsable de premier plan, un leader de parti par exemple pour porter cette idée, franchement il y a très peu de chances que ça arrive quand vous connaissez comment se déroule le débat législatif dans un pays comme le nôtre, quoi. Voilà. Il faut qu'un texte soit porté, soit soutenu et les initiatives comme les propositions de loi qui peuvent effectivement venir de tel ou tel député ou sénateur, si ça n'est pas soutenu derrière par un parti, idéalement même par une majorité, il se passe rien, quoi. Donc on peut se pignoler sur les initiatives politiques des uns et des autres, mais tant que ça n'est pas porté par des politiques de premier plan, voilà, je sais pas moi, un Jean-Luc Mélenchon, un Fabien Roussel, clairement, quoi. Pour parler que de la gauche, puisque à droite, pour dire les choses, à droite, c'est pas un Éric Ciotti qui va porter cette solution, et pas plus qu'une Marine Le Pen ou un Jordan Bardella un peu plus à droite encore, à l'extrême droite, eh bien, les choses ne bougeront pas, quoi. On m'a dit que Ruffin, je vais vérifier d'ailleurs, Ruffin avait pris position pour la légalisation. Je vais vérifier ça parce que c'est un truc qu'on m'a dit et que j'ai pas vérifié. Est-ce que l'insoumis Ruffin a dit clairement qu'il était pour la légalisation. François Ruffin. J'ai un truc de 2019, c'est un peu ancien ça. Ouais, 2019. C'est vieux, hein. Il faut voir où il en est en 2023, parce que parfois il arrive aux politiques de changer un peu d'avis. En 2019, effectivement, c'est un article de BFM ici, c'est même un extrait vidéo, il s'était dit favorable à la dépénalisation et la légalisation du cannabis. Voilà. Voilà. Mais s'il l'est encore aujourd'hui, c'est une voie isolée. Merci Pacorios pour le troisième mois d'abonnement et pour ta participation à ce débat aussi. Vous connaissez des politiques de premier plan qui ont pris position sur ce sujet pour la légalisation, je crois pas. Mélenchon, je suis pas sûr. Quelqu'un m'affirme que Jean-Luc Mélenchon, lors de la dernière présidentielle, avait pris position pour. Voyons. On vérifie. Peut-être que oui. J'ai un article de 2021 qui semble confirmer. parisien. Jean-Luc Mélenchon se prononce en faveur de la légalisation du cannabis 2021. Ouais, c'est vrai. Or, pour le coup, je retire ce que j'ai dit, parce que là, on parle d'un responsable politique de premier plan, et lui l'a clairement dit. Ok. Bien vu. Cyr Humaine me dit, j'ai relancé The Witcher, auquel j'ai joué avec Tonton. Je me suis régalé dimanche soir dans Simplay. Sachez que je suis en train de voir si dans ma vie d'aujourd'hui, dans mon emploi du temps d'aujourd'hui, je ne pourrais pas passer un peu de temps sur un jeu que j'aurais découvert dans Simplay, voilà, pour explorer par exemple l'univers de The Witcher. Voilà, il faut, techniquement, je pense que c'est possible, je devrais pouvoir y arriver. Mais encore faut-il que je trouve le temps, mais j'y réfléchis. J'y réfléchis. Ah! Fafnir, waouh, dit comment différencier un coup de com' d'une réelle volonté politique ? C'est très simple. Comment différencier un coup de com' d'une réelle volonté politique ? C'est très simple. Il faut juste que la personne qui fait la promesse, qui fait l'annonce, arrive au pouvoir. Donc déjà, il faut qu'elle soit élue. Et puis là, on voit si la promesse est tenue ou pas. Donc ça fait beaucoup de si. Il faut être un, élu. Deux, le faire. Et là, voilà. Et là, on peut déterminer si la promesse était juste. Était une vraie promesse ou pas, quoi. Merci Elisa. C'est beaucoup, 22 mois, merci à toi. Comment tu choisis les personnes que tu invites dans Simplay, me dit Mister Full Metal. C'est très simple. Je choisis des gens que j'aime bien. Et c'est un critère super. Je choisis des gens que j'aime bien, dont j'aime bien le travail, dont j'aime bien l'univers, dont j'aime bien la sensibilité, tout ça. Et je leur dis, bon bah voilà, quel jeu tu veux me faire découvrir ? Super simple. C'est l'avantage de faire un truc à la maison, quoi. Oh, Mister Chapois qui est très méchant avec Eric Zemmour. Parce que je viens de dire comment différencier une parole en l'air d'une vraie promesse politique fiable, je dis ben, il faut que la personne soit élue, puis là on voit, et là du coup Mister Chapois écrit donc on ne saura jamais pour les promesses de Zemmour. Oh, c'est méchant. Merci beaucoup Mandou76 pour le 11e mois d'abonnement, merci beaucoup. C'est méchant. Allez, je redeviens sérieux parce que on a beaucoup parlé ces derniers jours et je vous en reparlerai de ce dramatique tremblement de terre au Maroc et ce bilan si lourd. On est au-delà des 2000 morts et le bilan va continuer à s'alourdir. On a un bilan extrêmement lourd qui est sans doute plus grave, plus important, c'est pas une compète, hein, que celui du Maroc. C'est en Libye, voilà. 2000 morts, c'est vraiment le minimum, peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus après des inondations en Libye. Combien de morts ? La Libération n'arrive même pas à répondre à cette question ce matin. C'est encore un peu flou. Des milliers de disparus, en tout cas dans une zone qui est actuellement coupée du monde. Le bilan humain reste incertain, mais la tempête Daniel qui a ravagé l'est du pays dimanche s'annonce terriblement meurtrière. Après le déluge, la détresse, je vais vous lire ce dossier de Libération. Sachez que Libé est le journal qui s'intéresse le plus ce matin à ce qui vient de se passer en Libye avec un dossier qui est extrêmement complet, notamment sur la situation politique du pays qui est très compliqué et qui rend encore plus compliqué du coup les secours. Après le déluge, la détresse. Depuis dimanche et l'arrivée de la tempête Daniel, le pays compte plus de 2000 morts, principalement dans la ville de Derna. Cette ville complètement défigurée par la catastrophe. On estime qu'il y a 25% de la ville qui n'existe plus. Se situe dans les régions de l'Est, régions qui ne reconnaissent pas le gouvernement de Tripoli, ce qui complique la gestion des secours. Heroes Gohan, merci beaucoup pour ce 21e mois d'abonnement. Zoomons un petit peu sur l'article, je vous lis ça. Je suis en panne de café, je bois un petit peu d'eau en attendant. Le sort s'acharne sur la Libye, écrit Libé ce matin, après 3 guerres en 12 ans. Et leur lot de combats, de bombardements, d'attentats. La mort cette fois est venue du ciel et d'une rivière en furie. Les torrents d'eau déversés par la tempête méditerranéenne Daniel qui a frappé dimanche après-midi l'est du pays ont provoqué des inondations sans précédent. C'est bizarre parce que je dis l'après-midi et tout à l'heure j'avais lu que ça avait frappé les habitants en pleine nuit. On va vérifier ça. Il faut être précis sur l'info. Donc là on me dit dimanche après-midi, inondations sans précédent, la ville côtière de Derna a défiguré. des quartiers entiers emportés par les flots de deux barrages détruits. En fait, ces deux barrages anciens vieillissants qui ont cédé et qui ont provoqué en fait ces inondations extrêmement violentes. Merci beaucoup, Pelena Olvi, pour ce 14e mois d'abonnement. Dans un pays où deux pouvoirs rivaux cohabitent actuellement, le bilan exact demeure incertain. Aucun doute ne subsiste désormais sur un point, il est extrêmement lourd et voué à s'aggraver. Le directeur de l'hôpital de Derna parle de 2200 morts. Le chef de la délégation libyenne de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a évoqué quant à lui un nombre énorme de morts, sont précisés, et près de 10 000 disparus. Selon l'Organisation Météo Mondiale, le déluge déversé par le cyclone subtropical a provoqué dans la nuit de dimanche à lundi l'effondrement de deux barrages vieillissants, rendant la situation catastrophique et incontrôlable. Vous imaginez quand deux barrages cèdent. Ah ! Merci Hazard. Sur la question de savoir quand ça s'est produit et de savoir si les habitants ont été surpris dans leur sommeil, il y a Hazard qui me dit « La tempête a commencé dans l'après-midi, les barrages ont cédé dans la nuit. » Bon, du coup, je comprends mieux. Ok. Donc imaginez, hein, deux barrages qui cèdent, d'immenses coulées de boue qui dévalent vers la ville, emportant tout sur leur passage, les ponts, les routes, les immeubles, les voitures, des quartiers entiers ont été poussés à la mer. Imaginez cette scène, des quartiers entiers de cette ville poussés vers la mer. C'est dingue. Alors que la tempête s'accentuait dimanche soir, ah ouais, donc c'est bien ça, les habitants ont été surpris dans leur sommeil. Alors que la tempête s'accentuait dimanche soir, les premières alertes ont été émises, mais la plupart des gens dormaient, personne n'était préparé. 25% au moins de la ville a disparu. Il y a, disent les témoins, il y a des corps partout, dans la mer, dans les vallées, sous les bâtiments. Devant l'ampleur de cette calamité aux proportions gigantesques, les appels à l'aide internationale ont été lancés, se sont multipliés et de très nombreux pays ont répondu présent. La Turquie, première à répondre, voilà, en dépêchant plus de 150 secouristes, des tentes, des véhicules, des bateaux, des générateurs. Alger a répondu avec l'envoi de 8 avions militaires chargés d'aide alimentaire, médicale, de tentes, de vêtements. Émirats arabes unis ont répondu présent. L'Égypte a répondu présent. L'Italie a répondu présent. La France a répondu présent avec notamment l'envoi imminent d'un hôpital de campagne de sécurité civile. Et avec des équipes d'urgence qui vont être mobilisées sur le terrain. Avant même les annonces d'aide étrangère, le gouvernement basé à Tripoli, donc dans l'autre partie du pays, et qui est non reconnu dans la région touchée, a été le premier à réagir, donc ça c'est intéressant. Deux avions transportant 14 tonnes de fournitures, médicaments, matériel médical, 87 médecins, personnels de santé, ont quitté une base militaire proche de la capitale pour relier Benghazi. Un geste d'unité nationale dans un pays profondément divisé politiquement et géographiquement, et ça on va en parler dans un instant. Je vous lis un petit peu sur ce drame. Les vidéos sont choquantes, me dit Anderson qui a vu les images. Stockfire, on tombe en pleine force pour ce petit moment, ça va piquer mais ça va bien se passer. Alors non, je Malak, effectivement, je donnais une interview à l'hebdomadaire Télérama, très sympa d'ailleurs, sur qui s'intéresse, c'est très gentil à eux d'ailleurs, sur le fait que je passe plus de temps aujourd'hui sur Twitch qu'à la télévision et sur le fait que j'ai lancé une émission sur le jeu vidéo. Voilà. À quoi joue-t-il, c'est le titre de cet article dans Télérama. Donc j'en ai parlé, je ne vais pas vous le lire parce que ça va aller la séquence. Melon, ego, tout ça. Mais si ça vous intéresse, c'est à lire dans Télérama. Merci Bagua. Je l'ai fait quand je fus jeune. Alors, cette catastrophe en Libye, c'est aussi l'occasion de se pencher sur la situation très particulière de ce pays depuis la mort de Kadhafi, un pays disloqué. Titre Libé, livré à des luttes incessantes, le pays est aujourd'hui partagé en fait entre deux gouvernements ennemis. L'ONU fait pression pour que la concorde revienne dans le pays avec des élections, voilà. Mais elles sont manifestement très loin de se tenir. C'est parti. Dorian Malak. La Libye reste un pays disloqué. Depuis la révolution de 2011 et la mort du dictateur Kadhafi, il n'a pas réussi à s'unifier, restant soumis à des luttes incessantes entre groupes armés, entre hommes politiques, qui tente avant tout de rester au pouvoir sans considération pour une population qui est à la fois usée et désabusée. La cassure la plus nette dans ce pays reste entre l'Est et l'Ouest. Chacun dispose de son assemblée, de ses ministres, de son chef de gouvernement, de son armée. Deux administrations, l'une à Tripoli, l'autre à Tobrouk. La première donc à Tripoli est dirigée depuis 2021 par Abdelhamid Deiba, qui est un homme d'affaires très riche. La seconde par un ancien officier de l'armée Kadhafi qui est également détenteur de la nationalité américaine, qui s'appelle Khalifa Haftar. Le gouvernement de Tripoli est reconnu par les Nations Unies, celui de Tobrouk est appuyé par la Russie, qui a d'ailleurs envoyé des mercenaires Wagner, également par les Émirats Arabes Unis et par l'Égypte. Les rivalités ne sont pas que politiques, puisqu'en 2019, Haftar avait même tenté d'envahir Tripoli avant d'échouer et de reculer. L'ONU fait pression, je vous le disais, pour que se tiennent des élections, vu comme le seul moyen de réunifier le pays et de donner une légitimité aux nouveaux dirigeants des élections qui pourraient aider à la pacification, la réunification du pays. Mais l'IB semble dire que ces élections ne vont pas se tenir tout de suite. Je vous lis un petit peu. Ouais. Il y a un petit dessin dans l'IB, je ne vous l'ai pas montré, je vais aller le chercher parce qu'il est savoureux. Vous savez, il y a une dessinatrice géniale qui est la première dessinatrice femme de Libération d'ailleurs, qui skine tous les jours le dessin de Libération, donc qui s'appelle Coco, que j'adore, que j'ai reçu d'ailleurs dans la rencontre Étienne, et qui a fait un petit. Ah, faut feuilleter un petit peu, en général il est plus loin, voilà. Qui a fait un petit dessin. Oh, elle est méchante. Qui a fait un petit dessin dans l'IB. Sur, vous savez qu'il y a l'affaire du financement libyen d'une des campagnes présidentielles de Sarkozy, c'est une affaire, une des nombreuses affaires en cours qui vise l'ancien président. Et donc on voit dans ce dessin de Coco le président Sarkozy devant les images des inondations dévastatrices en Libye et Sarkozy qui se demande voilà, est-ce que vraiment tout a été emporté, peut-être. Peut-être des preuves. Et si vous regardez bien les détails, il y a un petit cadre photo ici avec une photo du président Sarkozy avec Kadhafi. Voilà, c'est Coco. C'est immense talent. Voilà. Et souvent des dessins qui font grincer des dents. Dans un instant, je vous emmène en Russie, en Corée du Nord. Ah, je suis en train de feuilleter l'IB là. Voilà, je vais chercher un petit café d'abord. Voilà. Je vous lis juste un petit peu. On aime qu'on s'attaque, ouais, Coco. Grand talent. Est-ce que l'ONU a un pouvoir pour imposer des élections? Non, pas vraiment. Egon, tu as raison. Vive le café, me dit à l'instant Yflin, tu as raison. D'ailleurs, je vais m'en faire un petit mois. Hein, vous en pensez quoi? Hein, 8h23, on se fait un petit café? Ok. On est encore ensemble pour une heure et demie. Hein, il faut que je vous quitte à 10h parce que j'enchaîne des rendez-vous après. Okay, je vous mets un mini café, mais 2 minutes, hein, vraiment super rapide. 2 minutes de musique pour les abonnés. On se retrouve dans 2 minutes avec un petit café. Faites-le plein vous aussi. Et je vous dis à tout de suite. Caféiné ou thé vérisé ou céréalisé ou ce que vous voulez. À tout de suite. Bien ça. J'arrive. Je reviens. Bande de belles personnes. To the moon. petit allié, un peu faible, au petit bras tout fin, et c'est aux muscles très peu saillants, donc de DK, de réussir à tromper mon cerveau, voilà, en envoyant au cerveau ce message de point, v'là ta dose de caféine, mon chouchou, voilà, en espérant que le cerveau se fasse avoir et qu'il pense que j'ai du café, quoi. Eh bien, pas du tout. Voilà, il faut faire ses courses soi-même. Mais je fais mes courses, c'est juste que j'ai oublié de ramener du café de la maison. Parce que je ne suis pas à la maison, je suis dans un petit studio à côté. Voilà. Bon, DK. Ça marche, l'effet placebo, j'espère bien. J'espère bien. Ribon TV, merci, ça va m'aider. Merci beaucoup. Merci pour le 25e moment, ça va un petit peu... Hop ! Voilà. Je suis... Il y a des mix qui est persuadé que je suis plus fort que le café et que je vais y arriver. Bon. Qui a osé acheter du DK ? C'est moi, en fait. C'est parce que de temps en temps, en fin de journée... Parce que non seulement j'aime la caféine, mais j'aime le goût du café. Donc parfois en fin de journée, genre à 20h, 21h, je me fais un petit déca, quoi. J'adore. Mais là, j'ai plus que ça. Je vous avoue que j'ai acheté aussi pour mes invités, pour ceux qui veulent un petit déca en fin de soirée, après l'hebdo Étienne ou après Simplet, quoi. Car je sais recevoir quand on sait recevoir. Hein, ici, on a du déca, on a du café, on a du coca zéro, on a plein de choses. Il y a Eric qui vient faire la cuisine le vendredi. Voilà. De temps en temps, je fais des petits barbecues. Voilà, je prends des petites saucisses, là, les Herta, là. Les knackis, là. Je fais un petit... Ah, même le parquet, on est des fous, ici. De toute façon, je loue, je m'en fous. Non, c'est pas vrai. Je loue, mais je m'en fous pas. Donc, je fais des petits barbecues, là. Comme dans la pub, là, avec le petit garçon, il y a quelques années, là, tu vois. Je casse du petit bois, là, tu vois. J'enfile, hop, je prends une petite branchette. Je le mets dans la saucisse, là, et je te fais griller ça, là. Voilà. Oh, les invités adorent. C'est un petit moment, comme ça... Ouais, en général, je joue de la flûte de Pan. C'est vraiment le voilà. Vous avez déjà essayé ? Très sympa. Alors, je me rends compte que je suis en train de raconter toutes ces bêtises avec le président Poutine à côté de moi. Voilà. Pourquoi le Parisien nous parle de la guerre en Ukraine ? Parce qu'il y a un invité surprise dans cette guerre en Ukraine qui est le président nord-coréen. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, le président nord-coréen Kim Jong-un ? Tout simplement parce que le leader nord-coréen, l'autocrate, dites-le, un dictateur, est arrivé en Russie pour un sommet avec Vladimir Poutine. Macadam, tu as tous les replays gratuitement sur la chaîne YouTube. Un train blindé, parce que le président nord-coréen a notamment cette habitude de se déplacer quand il le peut avec son train blindé, donc... qui roule pendant des dizaines d'heures, c'est pas un TGV blindé, c'est un train blindé, selon un itinéraire secret entre la Corée du Nord et le flanc extrême oriental de la Russie, donc à son bord Kim Jong-un, macadam de rien. Ce convoi achemine donc l'un des plus éminents dictateurs, le mot est lâché, au monde, à son rendez-vous avec un autre dictateur, dit le Parisien, concernant Poutine, fauteur de guerre, le dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, l'un des rares chefs d'État à soutenir l'invasion de la Russie en Ukraine, a quitté dimanche son pays pour la première fois depuis la pandémie de Covid pour rencontrer son ami Vladimir Poutine. On ne connaît pas le lieu, on ne connaît pas la date précise de ce sommet. Kim Jong-un est peut-être déjà arrivé sur le sol russe, on n'est pas certain à l'heure. En tout cas, la Maison-Blanche a mis en garde Pyongyang, donc la Corée du Nord, contre toute livraison d'armes à Moscou, puisque ce sommet se tient sous fond de guerre en Ukraine. Les services américains sont en effet persuadés que Kim Jong-un a déjà fourni aux forces russes de la milice Wagner des roquettes, des missiles anti-chars. Un accord russo-coréen avec notamment l'apport d'obus d'artillerie qui commence à manquer à Poutine ne pourra que favoriser une prolongation de cette guerre entamée depuis plus d'un an et demi. Est-ce qu'elle va favoriser ce rapprochement? Va-t-il favoriser une escalade des armements? La durée de la guerre implique l'escalade. Chaque camp jugeant qu'il lui faut à tout prix sortir de l'impasse actuelle, vous savez que la ligne de front évolue très très peu, voilà, explique Bertrand Badi qui est professeur à Sciences Po. Mais, dit-il, quand on pensait escalade, on pensait que ce serait une escalade dans les armes utilisées. À un moment, on a redouté que la Russie utilise l'arme nucléaire ou encore des ressources humaines russes. Et en fait, là, c'est surtout une escalade diplomatique à laquelle on assiste, puisque voilà Poutine contraint de quémander, dit ce spécialiste, l'aide d'un petit dictateur allié. Il avait déjà dû faire des concessions à son suzerain chinois, mais avec la Corée du Nord, c'est un signe d'escalade supplémentaire. On ne peut pas dire que la Corée du Nord soit l'un des régimes les plus fréquentable au monde pour dire les choses, quoi. Merci, c'est décupé pour les beats. D'autant que le leader nord-coréen va demander cher en échange, pense savoir le Parisien. La Corée attend une aide en alimentation, en énergie et, plus redoutable, en technologie militaire et spatiale. La dynastie Kim assoit son pouvoir sur la militarisation à outrance, affamant son peuple. Les Nord-Coréens, d'après les infos qu'on a, ne mangent pas à leur faim, mais développant des missiles balistiques intercontinentaux, potentiels porteurs de charges nucléaires. Avec ce sommet, Poutine adresse plusieurs messages, nous explique le journal. D'abord à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, en lui montrant que lui aussi peut compter sur les livraisons de ses, par des alliés d'armes. L'escalade résiderait donc aujourd'hui dans cette guerre mondialisée, qui n'est pas une guerre mondiale, qui est une guerre mondialisée, c'est pas une guerre avec plein de belligérants, mais c'est une guerre qui fait tache d'huile, malgré tout, de pays en pays, qui, sans s'engager directement sur le terrain, eh bien, soutiennent telle ou telle partie, soit l'Ukraine, soit la Russie. Donc voilà pour cette petite visite dont vous entendrez peut-être parler dans les médias, et je voulais vous donner un petit peu les biscuits pour l'analyser. On va se pencher sur l'Allemagne, sur la Corée, je voulais un petit peu peut-être. Oui, moi aussi, je trouve ça bizarre, l'itinéraire secret, quand on se promène en train. Hein, où vont les rails? On se demande bien. Voilà. Vous êtes plusieurs à vous interroger sur le côté secret d'un voyage en train. Voilà. Bon, peut-être qu'il y a plusieurs lignes, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi aussi, j'étais un petit peu surpris par ça, quoi. Ok, Nat me dit que ça y est, le dirigeant nord-coréen est arrivé en Russie puisqu'on avait des images de leur poignée de main ce matin sur France Info. Attention parce que parfois ça peut être des images d'archives aussi. Salut Sam, je suis journaliste. Une question, me dit Sony, j'aimerais beaucoup être abonné à tous les journaux. Combien ça te coûte par mois? Belle matinée, pop, pop, pop. Merci d'abord. Combien ça me coûte? Combien ça coûte un abonnement? En fait, en fait, il y a une vraie réduction par rapport au coût unitaire. Donc, on va aller voir Libération, par exemple. Mais en gros, c'est tous le même prix. En gros, hein. Il y a une vraie réduction. Quand vous abonnez à un journal, il y a quand même grosse réduction par rapport au coût unitaire. Je vais taper Libération abonnement, vous allez voir. Je dirais c'est entre 20 et 30 euros par mois. Je dirais 20. Je vais voir. Alors, il en fois X. Alors, hop, abo Libération. Voilà. Voilà. Regardez. Donc là, souvent, il y a des offres spéciales. Par exemple, là, c'est 1 euro pour 3 mois. C'est vraiment pas cher. Puis 11,90 €. Résiliable à tout moment. Donc ça, c'est pour l'abonnement numérique, c'est-à-dire vous téléchargez Libération tous les mois. Bon, là, c'est une offre spéciale. Normalement, c'est plutôt proche de 20 euros. Là, vous avez une offre qui, en gros, est à 11,90 € par mois. Ça va, en vrai, hein, quand vous voyez la quantité d'articles que vous allez pouvoir lire. Allons voir, je sais pas, moi, le Figaro. À mon avis, on va être sur du 20 euros max, quoi, 20, 30. Il y a souvent des promos, en plus, hein. Voilà. Voilà, là, par exemple, 4,99 € par mois pendant 12 mois. Au lieu de 16,99 €, on est en dessous des 20 euros. En vrai, quand vous voyez la matière, voilà. Alors ah oui, non, si vous abonnez comme moi à tous les quotidiens du matin, ça fait un petit budget, quoi. Voilà. Mais vous voyez, en gros, moins de 20 euros par mois, vous avez un abonnement tous les jours à un journal, quoi. Voilà. Quand vous le téléchargez, quoi, c'est ce que je fais moi. Si vous voulez le recevoir en version papier chez vous à la maison le matin, ça va être un peu plus cher parce qu'il y a des frais d'imprimerie, de portage, tout ça, quoi. Donc voilà, tu sais. Combien j'ai d'abonnements? Ben j'ai, bon, on va compter, hein. C'est parti. Parisien, Libé, Figaro, La Croix, Luma, L'Opinion, Les Échos. J'ai tout dit ou pas? Le Monde, ouais, bien sûr. Le Monde, voilà. Je crois que j'ai tous les journaux que je lis le matin, je les ai. Le Monde, ouais, bien sûr. C'est le premier journal que je lis parce que ça va prévenir. Pas l'Équipe. autant que je lisais. Alors je vous dis pour des raisons budgétaires, mais je vais me réabonner à l'équipe. C'est prévu là, imminemment. Les échos, j'avais oublié les échos. Non, les échos, je l'ai dit, je crois. Je sais plus. Bon, gros 5, 8, 8, 9. Voilà. Donc, on va fois 20 euros. Les échos, oui, bien sûr. Les échos, obligés, les échos. Donc, ça nous fait, on va dire, 9 fois 2, ouais, 180 euros par mois. C'est, voilà. Quelqu'un me disait, oui, alors il y a pourtant des trucs, genre caféine, qui permettent, moyennant un petit abonnement tous les mois, d'avoir accès à plein de journaux. Alors, non. Alors, ça, à un moment, c'était intéressant, c'est caféine et autres, qui proposaient effectivement, moyennant un abonnement unique, l'accès à plein de journaux. Alors, le problème, c'est que ces journaux, notamment les journaux nationaux qui, moi, m'intéressent, en fait, ils sont de moins en moins nombreux. Parce qu'en fait, les journaux se sont rendus compte que c'était plus intéressant de se vendre tout seul à l'unité ou à l'abonnement plutôt que passer par une plateforme qui va capter une partie importante des revenus. Donc, tu vois, là, il y a Thomas Tipeee qui me dit caféine, il n'y a plus que Le Parisien et L'Opinion, par exemple. Voilà. Il n'y a jamais eu Le Monde, il n'y a jamais eu L'Humanité, de toute façon. Donc, voilà. Donc, progressivement, c'est devenu de moins en moins intéressant. Et en plus, au-delà du fait que, par exemple, sur caféine, a priori, il n'y a que Le Parisien et L'Opinion à vérifier. En plus, vous les avez beaucoup plus tard. C'est-à-dire que caféine, moi, je l'ai beaucoup utilisé, et d'autres. Hein. Le problème, c'est que le moment où le journal était disponible variait un petit peu. Parfois, c'était très, très tôt le matin. Parfois, c'était un petit peu plus tard. Voilà. Donc, moi, c'était hors de question. Et tandis que là, quand vous êtes abonné aux journaux là, de façon directe, les journaux, vous avez dès le soir. C'est-à-dire à partir de 22h, 23h, vous avez les journaux. Quoi. Voilà. Beaucoup plus tôt que sur les plateformes. Voilà. Et puis, l'argent, il va directement aux journaux. Voilà. Alors la presse régionale, bien sûr, vous êtes nombreux à parler de la presse régionale. La presse régionale, on a une super presse régionale en France, de qualité. Voilà. Mais en fait, là, c'est le manque de temps. C'est-à-dire que comme je mets 2-3 heures à lire les journaux le matin, nationaux, si je rajoute la presse régionale, on n'en sort plus. En termes de lecture, en termes de longueur de revue de presse aussi. Donc Dauphiné Libéré, Ouest-France, tout ça, c'est excellent, hein, bien sûr. Mais c'est un problème de temps. Quoi. Donc j'ai fait un choix éditorial de vous proposer la presse nationale quotidienne, alors que la presse régionale quotidienne, elle est excellente. Excellente. D'ailleurs, au début, je vous la lisais, mais vrai problème de temps, quoi. Voilà. En vrai, il faudrait que je fasse presque une revue de presse une fois par semaine que régionale. Ouais, on pourrait faire ça. Je sais pas. Bon, voilà. En tout cas, voilà. On a la chance d'avoir une belle presse en France. Lisez-la, hein, pour la soutenir, parce que s'il n'y a pas de lecteur, ça s'arrête, quoi. Alors Canard Enchaîné, Valeurs Actuelles ou plein d'autres, les magazines, ce ne sont pas des quotidiens. Moi, mon kiff, c'est l'actu au jour le jour. C'est-à-dire qu'en fait, je veux savoir ce qui se passe dans le monde au jour le jour. Je veux savoir ce qui se passe d'important et je veux savoir ce qu'on peut en penser avec différents regards éditoriaux dessus. Je n'ai pas envie d'un espèce de digest, de résumé de l'actu dans un hebdomadaire, par exemple, qui va me dire, bah voilà, d'autant que c'est... Un hebdo, c'est intéressant, mais en gros, on va dire que ça devrait être un hebdomadaire. Express, l'Obs, tout ça. Le Point. Un truc qui revient sur l'actualité de la semaine et vous dit le plus important, mais sauf qu'il y a des choix éditoriaux derrière tout ça. Donc, en fait, vous n'avez pas tout. Et puis, vous n'avez qu'un seul regard. Hein, donc, il faudrait lire tous les magazines. Alors là, vous n'en finissez plus. Donc, voilà, c'est un choix que j'ai fait. Presse quotidienne nationale, qui est mon kiff. C'est celle que j'aime, quoi. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec Oz. La ligne éditoriale est bien trop marquée sur un édo. C'est vrai que je trouve que je pourrais pas me suffire de ça, quoi. Trophel. Je réponds à ta question parce qu'elle est importante. Mais ne t'excuse pas. Trophel dit pardon de te demander ça, mais je comprends rien à ton emploi du temps. Un jour sur deux, t'es pas là, c'est passé jamais les mêmes horaires. Est-ce que tu as un planning quelque part ou c'est un petit peu à la voile? Alors, ici, on essaie de streamer tous les jours. C'est-à-dire que la proposition de la revue de presse, c'est le matin, en gros, 9h midi, quoi. Voilà. Sauf que le week-end, je ne stream pas, notamment parce que le week-end est chargé, parce que le vendredi soir, il y a l'hebdo Étienne avec 4 invités. Et le dimanche soir, il y a Samplay. Donc, je ne fais plus de revue de presse le week-end. Et en semaine, avant, quand il y avait question pour un champion, je ne pouvais pas streamer. Sur 7 jours par mois, je ne pouvais pas streamer parce que, simplement, la journée était déjà trop importante et surtout je commençais les tournages de questions à 8h30, 9h donc râpé pour le stream, ce qui faisait que parfois je m'absentais trop, donc j'ai décidé à la rentrée que quand je ne pouvais, plutôt que de pas streamer, eh ben je stream aussi les journaux le soir. C'est pour ça que parfois tu me vois arriver des horaires bizarres. Après Question pour un champion, je me lève tôt le matin, je lis les journaux, je stream pas dans la foulée, je vais à Question, mais je reviens le soir. Voilà. Donc là, je suis en train de streamer quand même beaucoup plus qu'avant. C'est un petit peu l'idée. Voilà, voilà pour cette petite pause. Je vous emmène en Allemagne. Comme ça. Ouais. Ça va pas fort en Allemagne. Dorian Troffel. Maintenant, tu sais tout. Ouais. Nouvelle émission sur les jeux vidéo tous les dimanches soirs, ça me plaît. En vrai, on se régale. Ça va pas fort en Allemagne. L'économie allemande, tout saute, tout fort. Avec, on a une croissance en France qui est au-dessus de la croissance en Allemagne, hein, qui est ce qui n'est pas arrivé souvent dans l'histoire des deux pays. Et donc, le Figaro titre ce matin sur la grande panne du modèle allemand, affaibli notamment par sa dépendance à la Chine en matière d'exportation et ses mauvais choix énergétiques, hein, notamment le gaz. L'Allemagne était très dépendante de la Russie avant. Le poids lourd économique de l'Europe, peine à rectifier sa trajectoire, à s'adapter avec à sa tête une coalition paralysée. Donc il y a des raisons économiques et politiques. Merci Vartak pour le gentil message. La traditionnelle locomotive de l'Europe est en panne. Alors c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'Europe d'ailleurs, parce que quand l'économie allemande va, elle entraîne aussi un peu avec elle l'économie européenne, quoi. Donc la traditionnelle locomotive de l'Europe est en panne. L'Allemagne devrait voir son PIB reculer de 0,4% en 2023. Oui, l'arrêt du nucléaire aussi, tu as raison. Tilox. La pire performance parmi les pays du G7. La pire performance parmi les pays du G7. Pour l'Allemagne, c'est une révolution, quoi. Et sa croissance va rester inférieure à celle des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France. Alors ça, c'est pas souvent. Et de l'Espagne, pas maintenant, dans les 5 années à venir. Alors, est-ce que le pays est redevenu l'homme malade de l'Europe, comme on disait après la réunification, qui économiquement a été dure à digérer, c'est l'hebdomadaire britannique The Economist qui se posait cette question. Excellent hebdomadaire d'ailleurs. Suscitant une vague d'introspection dans une nation d'ordinaire confiante, la France est une Allemagne meilleure, a même écrit un éditorialiste du Spiegel. Édito, alors il y a un gros dossier dans le Figaro sur pourquoi l'économie allemande ne va pas très très fort, mais qui est bien résumé dans cet éditorial. Un édito, c'est à la fois un avis sur l'actualité, et parfois c'est un très bon résumé aussi de la situation, quand il est bien foutu, et c'est plutôt le cas ici. Il est signé Patrick Saint-Paul, en une du Figaro, quand le colosse trébuche. Lisons. Étrange revirement. Oui, l'Allemagne a gagné, ça c'est le foot. Vous avez raison, l'Allemagne a gagné match amical hier soir contre la France, mais qu'est-ce qui est important, un match amical ou la croissance? Étrange revirement. Homme malade de l'Europe au sortir de la réunification, l'Allemagne a réalisé ensuite un miracle économique grâce aux réformes libérales de Schröder, Gerhard Schröder. Jugé incapable de se réformer, la France à l'époque n'était plus considérée vraiment comme un partenaire. Armé de son insolente réussite économique, Berlin a donné le la en Europe pendant des années, infligeant ses amères potions au Club Med, comprenez les pays du sud de l'Europe. Aujourd'hui, l'Allemagne se rend compte que son modèle vacille. Depuis l'abandon du nucléaire, elle était dépendante du gaz russe. L'Eldorado chinois des exportations se paie cher. Sa sacro-sainte industrie automobile a tardé à prendre le virage de l'électrique. Sa croissance est en berne, alors qu'elle revient partout en Europe. Les milieux économiques se désolent d'être étouffés par une bureaucratie allemande kafkaïenne. Le manque de main-d'œuvre provoqué par la dénatalité, puisque les Allemands font moins d'enfants que nous, par exemple, est compensé par l'immigration. Du coup, l'extrême droite grimpe en flèche, la prospérité est en danger. Une évidence, rappelle le Figaro, l'Allemagne conserve quand même d'immenses atouts. Premier chef, un niveau d'endettement dérisoire, une rigueur budgétaire en Allemagne qui fait que leur niveau d'endettement par rapport à un pays comme la France est ridicule, ce qui lui offre de considérables réserves, peut-être pour relancer son économie. Mais son redressement passe par un ambitieux programme de réformes structurelles. Et là, il y a un hic, il y a un os. Le pays est dirigé par une coalition des contraires, estime le Figaro, ingouvernable. Alors je ne sais pas ce qu'est la réalité de l'ingouvernabilité de l'Allemagne aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une coalition au pouvoir, ce qui arrive souvent d'ailleurs en Allemagne. C'est un régime politique qui permet justement à des coalitions, à des partis de s'unir pour diriger, parce qu'en France, n'est guère possible avec notre système de la Ve République. En ce moment, au pouvoir, vous avez les sociodémocrates qui sont alliés avec les écologistes et avec les libéraux. Voilà. Donc certains d'ailleurs en France souvent disent « Ah, c'est formidable l'Allemagne parce qu'il y a des gens qui gouvernent ensemble au nom de l'union de l'union, de l'intérêt du pays. Sauf que là, le Figaro semble nous dire que le pays devrait prendre des réformes structurelles importantes et que le fait qu'ils soient en coalition, c'est-à-dire qu'ils doivent se mettre d'accord, fait que ces décisions ne sont pas prises. Bon, voilà. Magicien, on en a parlé, la Corée du Nord, mais tu étais pas avec nous tout à l'heure. Le live se termine vers 10h, 9h30, 10h, Mesélix. Il y a Skies and Art qui dit c'est marrant, en arrivant sur ta chaîne ce matin, j'ai eu une pub boss avec Chris Hemsworth, donc qui joue Thor. C'est parfait pour ton stream. Es-tu en train de me dire que j'ai le look, le physique d'un dieu, Thor, ou d'un acteur, Chris Hemsworth, voilà, ou que je me trompe souvent sur l'actualité et du coup j'ai souvent Thor, rapport à Thor. Je ne sais pas comment le prendre. En tout cas, j'ai envie de dire merci. Comment ça, mon réel Insta est en train de tout casser? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Il y a Joe qui est avec nous. Joe, il surveille mon Insta comme le lait sur le feu. Qu'est-ce que j'ai fait sur... C'est quoi un réel? Qu'est-ce que j'ai fait sur Insta? Tu parles de quel réel, Joe? Parce que je poste des trucs sans arrêt... Nickel. Joe, avec nous. Joe, pas de soucis, magicien. Mais t'as tout en replay. Alors, Joe traduit en langage pour les vieux. Ta vidéo sur Insta est très partagée, celui d'aujourd'hui. Ah ouais, ouais. C'est cool. Ça prend un petit peu mes petites revues de presse sur tout. C'est cool. Ok. Ouais, mais déjà, hier, elle avait bien marché. Petite revue de presse express, là. Sur TikTok aussi, t'es content? Voilà. Je me suis demandé si j'allais continuer parce que je trouvais qu'il n'y avait pas trop de monde, puis ça commence. Ok, d'accord, ok. Astrid Doudou, merci beaucoup pour le 17e mois d'abonnement, c'est adorable. Et Joe qui est dans la boucle pour peut-être quand j'ai du temps, un jour prochain, que je me mette à streamer du jeu vidéo. Pas un invité qui vient à la maison pour me raconter sa passion pour un jeu vidéo, etc. Non, moi, tout seul, dans un jeu vidéo, à être totalement perdu, à ne pas savoir sur quel bouton appuyer, ne pas comprendre ce que veut dire ce truc, pourquoi ce machin, où est-ce qu'il faut regarder, en haut, en bas, à droite, à gauche, tout, voilà. J'ai très envie de le faire, notamment sur, par exemple, The Witcher que je viens de découvrir avec Tonton. Voilà. Et je me suis dit, au début, c'est impossible, je comprends tellement rien à rien. Ça va être pour les gens qui vont me regarder, ça va être une horreur. Et après, je me suis dit, mais ils sont tellement gentils dans le chat, ils vont me dire, appuie sur X, mais tape. Appuie sur Y, appuie sur le truc en haut là. Voilà. Fais sur le clavier, là, je sais pas, le ZQSD qu'on m'a appris, tout ça là. Voilà. Donc j'y pense, il faut que sur un plan technique ce soit au point. J'ai 15 000 PC à la maison, là, je suis perdu. Et puis voilà. Voilà, ça va backseat, exactement. Ah bah oui, en fait ça ne marche que si ça backseat à mort, quoi. Donc je suis sur cette réflexion là. C'est vrai que c'est vrai que Ryu avec Smash, Jill avec Pokémon Emerald. Elle fait que j'avais commencé à m'interroger, mais là, Tonton avec The Witcher, là, je me suis dit, putain, faut que j'explore ce truc, quoi. En très slow run, par contre, hein. En très très slow run, quoi. Très très. Voilà. Alors, faudrait être patient. Voilà. Je pense, Tonton m'expliquait que ouais, The Witcher, ça s'explorait en 50 heures, 80 heures, 100 heures. Bon, moi, je pense que ce sera plutôt de l'ordre de 1000 heures, quoi. Voilà. Ouais, j'ai bien envie de faire ça. Ouais, on ponce like, sauf que ponce, il le fait exprès. Moi, j'ai pas le choix. Astrid Doudou, merci pour le 17e mois. Donc, et Rondoudou, juste en tout, je l'avais pas vu, merci pour le 15e mois d'abonnement. Donc voilà pour l'économie allemande qui est pas très en forme. Alors je sais pas si ça va consoler les Allemands, je suis pas sûr. L'équipe de foot allemande hier soir a gagné contre la France. Bon, c'est un match amical, hein. C'est pas les éliminatoires pour l'Euro, mais effectivement l'Allemagne je sais pas où avait, le match était chez eux d'ailleurs, a gagné 2-1. Les Bleus ont fait l'impasse. Il paraît que le match n'était pas terrible. Au terme d'un match insipide, nous dit le Parisien, l'équipe de France privée de Kylian Mbappé, qui a un petit souci au genou, a enregistré sa première défaite de l'année 2023. Aucun joueur ne sort grandi de ce déplacement outre-Rhin. Quelqu'un l'a vu, mais il paraît que c'était pas terrible. Ouais. Ah, Mbappé a pas joué, donc ça compte pas, me dit Marmos. Bon, c'est un peu comme au PSG, quoi. Je me suis... Il y a le guitare qui dit « Je me suis endormi devant, toi. » Pur match, quoi. J'ai pas regardé. Une purge, me dire le retour. Une purge, ce match. Bien sûr. On va s'arrêter quelques secondes pour quelque chose d'important. Il y a The Tangerine Nightmare, qui est un pseudo que j'aime beaucoup, qui dit « Samuel, c'est bientôt mon premier anniversaire de Pax avec mon conjoint Charles. » Je dis bravo. Et il est un peu fan de toi. Une personne de goût. Est-ce que tu pourrais lui dire un petit mot que j'enregistre ? Charles, attends, alors, tu es prête, Turangine ? C'est parti. Charles, j'apprends, parce que j'essaie de rester un journaliste bien informé, on lit ici une presse de qualité tous les jours, ici le Parisien sur le match de foot entre l'Allemagne et la France. Charles, j'apprends que vous fêtez tous les deux votre premier anniversaire de Pax. Je vous félicite. Et je vous souhaite un bonheur infini, et lumineux, et très doux, et puis plein de belles choses, voilà. Et j'espère que dans un an, on se retrouve pour un deuxième anniversaire de Pax, voilà. Et puis j'espère que vous fêterez ça dignement. Voilà. Un petit champomis, un petit croque d'Inde, faites péter, c'est la fête. Voilà pour le petit message. J'espère que ça lui fera plaisir. J'ai essayé de regarder le match, me dit Rafa, mais j'ai préféré aller sur Popcorn. Bah tu m'étonnes. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Tu fais pas payer 40 euros comme Thibaut InShape, c'est-à-dire pour les messages d'anniversaire, là il y a moyen de se faire de la thune là-dessus. Il y a des gens qui font payer les messages d'anniversaire. En vrai, ça existe? Non. Madanico, merci pour le deuxième mois d'abonnement. C'est possible, ça? Ça m'intéresse pour un ami. Ah, c'est 70 euros, me dit Tilox. Tu peux? C'est vrai? Je crois que ça existe. Il y a un site qui propose ça? Ok. Non, bah non, non, non. Non, non, les anniversaires, c'est gratuit. Je te vois, toi, là. Je te vois, toi, là, ce matin, qui dit « Oh là là, quand même, dans quel monde vivons-nous ? L'actualité est quand même très anxiogène, toutes ces mauvaises nouvelles, ces catastrophes en ce moment. Madanico, merci beaucoup pour le deuxième mois d'abonnement. La Truffe, merci beaucoup pour ce soutien. Et tu n'aurais pas une petite bonne nouvelle pour moi ? Oui ! Elle est là, regarde. Face à la mucoviscidose, l'accès au CAF Trio encore élargi, c'est une vraie bonne nouvelle. » Dans l'actualité, il y a quelques temps est apparu un médicament quasi miracle, quasi miraculeux pour traiter la mucoviscidose avec des résultats incroyables. Voilà. Et il est élargi en France, c'est-à-dire que maintenant on va pouvoir le donner à des enfants plus jeunes en fait. Merci Alexandra pour la petite surveillance du compte TikTok. Dans un avis qui a été publié lundi, donc c'est tout frais, la Haute Autorité de Santé valide l'accès précoce à partir de 2 ans désormais. Au CAF Trio, traitement qualifié de révolutionnaire par les médecins. Et c'est le cas, hein, c'est ce que disent aussi les familles de victimes. Oh là, il y a un boucan dans ma cour. Selon l'association Vaincre la mucoviscidose, 500 enfants supplémentaires pourront bénéficier du remboursement de ce médicament qui coûte très cher. À un moment, quand on voit ce qu'il provoque, vous allez dire, je vais vous dire, on s'en fout. Lisons. La décision était attendue avec beaucoup de fébrilité par les parents de très jeunes enfants atteints de mucoviscidose. Dans un avis publié lundi, la Haute Autorité de Santé a donc donné son feu vert à l'accès au CAF Trio pour les patients dès l'âge de 2 ans lorsqu'ils sont porteurs de la mutation F58del, qui est la plus courante dans cette maladie génétique, qui est une maladie énormément impactante, hein, voilà, et qui condamnait les personnes atteintes de cette maladie à une espérance de vie extrêmement réduite. Et c'est moins vrai aujourd'hui. Donc, environ 500 enfants en France de 2 à 5 ans, c'est beaucoup, hein, vont pouvoir bénéficier de ce traitement qui change la vie des patients, mais vraiment, vous allez voir. C'est un immense espoir pour eux et pour leur famille, bien sûr, et pour leurs parents. Développée par un laboratoire américain qui s'appelle Vertex, cette trithérapie innovante est déjà prise en charge par l'assurance maladie depuis 2021, mais seulement pour les patients de 12 ans et plus. Fin 2022. L'accès avait été élargi aux 6-11 ans et désormais c'est à partir de 2 ans. Les malades pourront donc bénéficier de ce médicament vendu plus de 10 000 euros pour une boîte de 56 comprimés, soit un mois de traitement. Là, je sais que certains d'entre vous vont halluciner. 10 000 euros pour 56 comprimés pour un mois de traitement. C'est cher. C'est un traitement qui est très cher. Mais qui change la vie et qui, limite, donne la vie aux personnes qui le prennent. Et là, bah, du coup, bah, c'est moins cher, quoi. Pneumologue, Pascaline Priou se réjouit d'ailleurs de cette décision. Plus le traitement est pris tôt, moins il a de dommages sur le corps, notamment au niveau des bronches. Avec un traitement démarré dès 2 ans, on va tendre vers une espérance, une qualité de vie normale, normale, normale. Clamakine dit dans le chat, la vie n'a pas de prix, bien sûr. Oui, c'est pris en charge par la sécurité sociale, bien sûr. Fafnir, en fait là, la nouveauté, c'est que c'est remboursé maintenant dès l'âge de 2 ans, quoi. Voilà. Mais il faut, et c'est toute la noblesse, et je dirais la beauté du système de santé français, que de permettre le remboursement d'un tel traitement malgré son prix, qui change la vie des gens qui le prennent. Bon, voilà, aux États-Unis, si t'as pas les sous, tu meurs, quoi. Voilà, bon, c'est comme ça. Donc c'est la solidarité nationale qui intervient. Et puis ce traitement, comme par ailleurs il fait que, vous allez le voir dans un instant, les gens qui le prennent peuvent se passer de plein de soins annexes, notamment de kiné. Ce traitement, en plus de donner littéralement la vie, bien en fait il permet de faire plein d'économies sur des traitements par ailleurs à côté. Par ailleurs. Et puis peut-être que ce traitement va voir son prix baisser dans les prochaines années. Hein. Alors, continuons. Alors d'abord, je reviens un petit peu en arrière parce que la pneumologue Pascaline Priou dont je parlais, elle dit qu'avec ce médicament, on tend vers une espérance et une qualité de vie normale, alors qu'il y a encore 30 ans, peu de patients arrivaient à l'âge adulte. Il n'y a encore pas si longtemps, rappelez-vous de Grégory Marshall, le jeune chanteur, là. Un enfant dont on se rendait compte qu'il avait la mucoviscidose, en gros, c'était un enfant dont on savait qu'il n'allait pas devenir adulte, ou alors à peine, quoi. Madanico, merci beaucoup pour le soutien. Depuis la commercialisation de ce médicament, donc le CAF-TRIO, patients et parents d'enfants malades témoignent d'un changement radical. Jamais je n'aurais cru que les effets puissent être aussi spectaculaires, dit Virginie, qui est maman d'un petit Antonin. Lorsque son fils a bénéficié du traitement, il avait 11 ans et demi à l'époque, ça a été impressionnant. Écoutez, c'est fou. Écoutez, 3 heures à peine après avoir pris son premier comprimé à l'hôpital, Antonin a toussé comme je ne l'avais jamais entendu tousser auparavant. C'est comme si d'un coup, 3 heures après, le premier comprimé, tout s'était fluidifié dans ses poumons. De retour à la maison le soir même, c'est incroyable, le garçon ne se lassait pas de monter et descendre des escaliers, ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Regarde maman, je ne suis même pas essoufflé. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Un an et demi après, Antonin, qui voyait une kiné tous les jours, ne fait plus qu'une séance tous les 15 jours. On n'est plus obligé de se déplacer avec une valise de médicaments, de matériel pour quelques jours de vacances, se réjouit la maman. Liberté qui va permettre à cette famille de réaliser un rêve, de partir 4 mois en tour du monde. Donc vous avez... c'est la vie d'une famille, en fait, qui est bouleversée, qui est transformée, quoi. C'est incroyable. Chez une grande partie des patients, donc, les symptômes... Oh là là, quel bordel dans la cour, là. Faut arrêter les gens qui bossent dans ma cour, là. C'est fou, ces gens qui travaillent, là. Arrêtez. Allez. Chez une grande partie des patients, les symptômes, toux, expectoration, essoufflement, difficulté à prendre du poids, disparaissent totalement, à tel point qu'ils finissent par oublier qu'ils sont malades, confirme le docteur Pascaline Priou, qui parle d'un séisme dans la prise en charge. Rarement dans l'histoire on a vu des traitements représenter une telle révolution, d'autant qu'il ne s'agit pas d'un traitement lourd, hein, il y a juste 3 comprimés à prendre par jour avec des effets secondaires qui sont limités. Reste que, c'est important, on ne guérit pas de cette maladie, c'est-à-dire que le traitement supprime tous les symptômes, hein. Les difficultés à respirer, les douleurs, voilà. Mais si vous arrêtez le traitement, la maladie revient. Voilà. Alors, il y a un problème, c'est qu'il y a 20% des patients, des gens atteints de mucoviscidose, qui ne sont pas porteurs de cette mutation qui est visée par ce médicament, la F508del, donc qui rend du coup le CAF-TRIO inefficace la plupart du temps pour 20% de la population de gens atteints par la muco. Pour eux et pour les autres, donc la recherche doit poursuivre. ses efforts. Bonne nouvelle, magnifique nouvelle, je vous lis un petit peu. Oui, c'est ça. Alors, on évoquait le prix de ce médicament, 10 000 euros par mois. Mais comme le dit Pacorios, combien de soins annexes économisés, c'est efficace pour les patients. Au final, ça baisse les coûts pour la collectivité. Oui. Axonigami, merci beaucoup pour ce soutien, c'est adorable. Alors évidemment, on aimerait tous que, dans un monde idéal, que ce traitement soit très peu cher. Qui a envie de se faire autant d'argent sur le dos de malades en laissant mourir les autres? Alors, pas en France, puisque ce médicament est remboursé par la Sécurité sociale, mais peut-être que dans les pays où il n'y a pas ce système de protection, effectivement, il y a plein de familles qui n'y ont pas accès. Alors, moi, je ne suis pas un défenseur acharné des labos, mais il faut quand même comprendre que pour trouver un médicament comme ça, il faut du temps, énormément de temps, des années, des dizaines d'années de recherche parfois, de l'argent, beaucoup d'argent. Et qu'à un moment, si vous dites au laboratoire écoutez, on va vous laisser chercher pendant des années, investir de l'argent, du temps, des moyens humains, matériels pour trouver un médicament, mais par contre quand vous l'aurez trouvé, eh ben, quick, vous ne pourrez pas le vendre, pour revenir un peu sur votre investissement, ben, qu'est-ce que vont faire les labos? Ben, ils ne vont pas chercher, ou alors ils vont chercher des trucs de confort, calvitie, que sais-je, voilà. Mais pas les, voilà, vous comprenez? Donc c'est un débat compliqué, mais vous pouvez pas empêcher les labos de se faire de l'argent, en fait, parce que c'est la plupart du temps des boîtes privées, et ce qui fait fonctionner une boîte privée, désolé hein, dans un système capitaliste libéral, c'est le profit, quoi, hein. Comme le dit Gandalf Listari dans le chat, le prix est élevé mais il faut rembourser les frais de recherche et développement, et un jour le prix baissera, quoi. Et un jour même, normalement, le médicament tombe dans le domaine public, c'est ça, hein. Et là, on peut, enfin, c'est comme ça qu'on dit. Et après, là, il peut y avoir le générique, au bout d'un certain temps. Il y a Kyonshin qui dit calvitie, on prend quand même. Hein. Oui, moi, je suis d'accord. On prend. Alors, insolite, le jeu rappelle que en soi, en France, c'est pas gratuit non plus. On cotise pour la Sécu, il est important de le rappeler. On cotise et puis surtout, on cotise ensemble, quoi. Et puis, effectivement, les personnes en bonne santé cotisent pour les personnes qui sont malades. Et c'est très bien, cette solidarité nationale. C'est notre système, c'est le nôtre. Waouh! Ah, les audiences de questions pour un champion qui tombe. Écrivain, notre ami écrivain, qui, si je suis ton actualité, est passé sur YouTube. Hein. Il y a quelques semaines, j'ai eu une infection pulmonaire très grave. J'ai pris l'antibio par intraveineux. J'ai demandé le prix d'une injection. En toute transparence, mon infirmier m'a répondu 25 000 euros par injection. Voilà. La France, mesdames et messieurs. Ben, je crois que... Alors, il y a des débats, ça coûte cher. Mais en vrai, c'est fou, quoi. Cette solidarité nationale. Ouais. Alors, hop, en direct, les audios. En tout cas, vous savez, être présentateur, c'est retourner à l'école, parce que vous avez tous les matins, en fait, les audiences qui tombent comme une note. Vous savez, quand le prof ou distribuer les copies, là, on peut mieux faire. Alors, parfois, les plus vicieux commençaient par la meilleure note. Et puis, plus ça mettait du temps, plus la note était basse. Voilà, donc, tous les matins, j'ai ma note. Voilà. Bon, c'est l'audience. L'audience n'est pas tout, mais bon, si ton émission n'est pas regardée, ben, c'est pas bon, quoi. Bon, on est bien. On est bien. On est pas mal. Genre, t'es responsable de la note d'audience, me dit le guitare. Bah, le problème, c'est que si les audiences sont pas bonnes, dans le temps, il y a un moment, ton émission s'arrête, en fait. Voilà. Alors, l'audience n'est pas forcément un signe de qualité. L'audience ne garantit pas, d'ailleurs, qu'une émission reste à l'antenne. Vous avez des émissions qui font de l'audience, mais qui sont arrêtés parce qu'à un moment, la chaîne peut estimer que l'image de l'émission n'est pas bonne, ou voilà, voilà. Et inversement, vous avez notamment sur le service public des émissions qui ne font pas beaucoup d'audience, mais qui sont maintenues parce que le groupe estime que c'est une émission de qualité. Ça, c'est toute la noblesse du service public. Dans un système économique qui n'est pas le même que les chaînes privées, donc le service public peut se le permettre aussi. Voilà. Mais en vrai, une émission qui ne fait pas d'audience, c'est un peu dangereux, quoi. D'un moment, ça peut s'arrêter, quoi. Donc, c'est important. Ça n'est pas tout, mais c'est important. Pour le coup, les audiences de Questions pour un champion sont excellentes. Ça, c'est cool. Et c'est grâce à vous. Ah, oh là là, je vais être... Non, mais non, mais après, vous m'obligez à être méchant. Il y a Uniplo qui dit, mais alors, pourquoi TPMP est toujours à l'antenne si l'image compte? Alors, j'ai dit que l'image d'une émission était importante pour certains groupes audiovisuels, pour certaines chaînes. Voilà. Pour certains, il n'y a que l'audience qui est importante. TPMP n'est pas une émission du service public de l'audiovisuel. Je vais m'arrêter là, je pense que vous avez à peu près le vous voyez à peu près le truc, hein. Voilà, c'est juste. Il y a Nelson Mandela qui dit TPMP n'est pas une émission si méprisable. J'ai pas dit que c'était une émission méprisable, j'ai juste dit que c'était une émission qui n'était pas du service public et que voilà. C'est comme une émission qui a été condamnée un nombre incalculable de fois par l'ARCOM avec des montants, des millions d'euros d'amende, hein, pour des propos tenus à l'antenne qui ne sont pas tenus, qui ne sont pas contrôlés. Donc c'est pas moi qui dis, c'est l'ARCOM. Et le groupe préfère payer les amendes plutôt que demander à cette émission de changer de ligne éditoriale, quoi. Donc je ne dis pas que c'est méprisable, je dis juste que, en tout cas, c'est condamné par l'ARCOM. Alors c'est bien d'ailleurs parce que ça finance le cinéma français, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les millions d'euros collectés par l'ARCOM, notamment grâce à TPMP, eh bien ça va au financement du cinéma français. Voilà. D'ailleurs, sachez que... je ne l'ai pas dit beaucoup, mais je ne l'ai dit qu'une fois déjà. En octobre, on recevra le président de l'ARCOM, ici, voilà, qui viendra répondre à toutes vos questions sur comment on accompagne, on modère, on encadre la production audiovisuelle en France, ce qu'il y a à l'antenne. Vous pourrez lui parler de TPMP, par exemple, voilà, ou du service public. Vous posez toutes les questions que vous voulez, hein. L'ARCOM est compétente sur notamment la télé, sur la radio. Est-ce que l'ARCOM est compétent, par exemple, sur le contenu sur Internet? C'est une question qu'on pourra lui poser. Comment, plein de questions. Voilà. L'ARCOM est au centre de plein de choses. Voilà. Donc ça, je vous annoncerai ça. Quelle heure il est? Non, 9h, on est bien. 9h, on est bien. Non! Oui, mon capitaine, je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup ton pseudo, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a Oui, mon capitaine qui dit TPMP est une émission de divertissement. Point. 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 Après, quand c'est le but premier, il ne faut pas prendre ce qui est dit pour argent comptant. TPMP n'est pas qu'une émission de divertissement. C'est une émission de divertissement. Mais c'est une émission qui aborde quasiment quotidiennement des questions d'actualité, qui aborde quasiment quotidiennement des questions de société, souvent importantes, trafic de drogue par exemple, que j'ai évoqué ce matin. C'est une émission qui invite régulièrement des personnalités politiques. Voilà. Donc ça n'est pas une émission que de divertissement. C'est faux que de le dire, quoi. Et c'est là où y a un sujet, quoi. Allez, on va pas passer notre vie sur TPMP. TPMP, est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça? J'ai besoin de... Merci Nordkorig et bon voyage en Irlande. C'est en Irlande? Et ouais, merci à toi, merci pour le soutien. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça, les possesseurs d'iPhone là? Est-ce que le fait que l'iPhone 15 maintenant il va se charger avec un connectique USB-C et non Lightning, est-ce que c'est bien? Ouais. C'était imposé de toute façon par l'Europe, Apple n'a pas tellement eu le choix. Donc oui, je vois oui. Ah, charge plus rapide, me dit Yux, pour ça j'étais pas sûr d'avoir bien compris. Oui. Plutôt oui, bien sûr. Moins cher, donc oui, ça va être plus simple, plus équitable, plus rapide. Il faudra acheter tous les nouveaux câbles, se plaint le vieux carton. Bonne nouvelle cette loi. Oui, la fiabilité des anciens était nulle, trop fragile. Tu parles de la connectique Lightning, donc. Ouais.
Ok. Oui, chargeur universel, me dit Marie Marmotte, ça éviterait d'avoir 15 câbles différents, moins de gâchis. Ok. J'ai pas d'iPhone, me dit Magicien 6.
Bon, on va t'en acheter, on va t'en acheter.
Ok, a priori, bonne nouvelle. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle, let's go. L'iPhone passe enfin au chargeur universel. Puisqu'Apple vient de faire sa conférence de rentrée avec les nouveautés là, et vient d'annoncer que le dernier né d'Apple, l'iPhone 15, présenté hier au siège de la marque, abandonne son système de connectique perso, qui est le système de connectique historique d'Apple, Lightning, pour l'USB-C qu'on retrouve aujourd'hui sur plein d'appareils disponibles sur le marché, tablettes, téléphones, etc. quoi. Donc l'idée c'est qu'il y ait moins de chargeurs à la maison, moins de câbles et quelque part que ça puisse faire des économies pour le consommateur. Donc ça a été présenté mardi soir au siège d'Apple à Cupertino, aux States. L'iPhone 15 est le premier de l'histoire de la marque à abandonner sa fameuse connectique proche. Ouais, exactement. Donc bye bye le Lightning. Et bienvenue à l'USB-C, bien davantage connu dans le monde des smartphones puisque partagé par l'ensemble des modèles Android. Ce passage n'est pas un choix, rappelons-le, de la marque américaine, mais une contrainte, une obligation à venir, puisque la directive européenne chargeur universel pour les appareils électriques impose à partir de l'automne 2014, donc l'an prochain, un seul et même chargeur en USB-C aux fabricants de téléphones, de tablettes, de liseuses et du casque audio. Donc c'est pas que pour iPhone, c'est pas que pour les téléphones d'ailleurs, ça marche aussi pour les casques. À partir de l'automne 2024, en Europe, les constructeurs ne pourront pas vendre des matériels, téléphones, tablettes, casques, s'ils sont pas USB-C quoi. J'ai dit 2014 ? Putain, c'est ça d'être vieux. 2024 ! Heureusement que vous êtes là. Voilà. Donc Apple a pris un petit peu d'avance puisque l'obligation rentrait en vigueur l'an prochain en 2024, je sais pas qui disait 2014 à l'instant là. Faut suivre un petit peu les gars, là, c'est fou ça, prenez-vous un café, je sais pas moi. Pour les utilisateurs d'un nouveau modèle de la marque à la pomme, l'USB-C va sans doute pas changer grand chose, surtout s'ils sont déjà équipés d'un ordinateur portable MacBook ou d'une tablette iPad assez récente. Ben, ça c'est vrai, parce que mon iPhone ici, d'ailleurs c'est un 12, celui qui émet des ondes trop fortes, là on va en parler. L'iPhone là, il est en Lightning, et mon iPad sur lequel je lis les tablettes là, l'iPad géant là, il est en USB-C. J'ai deux câbles différents pour deux produits de la même marque. C'est débile. Rouliab, merci pour le cinquième mois d'abonnement, c'est super gentil. Le temps de chargement entre les deux systèmes sont à peu près équivalents en fonction de la puissance de la prise murale. Ok. Brancher un écouteur, des écouteurs ou un écran de n'importe quelle marque sera plus facile. Bonne nouvelle donc, dit le Parisien. Qui n'arrive pas seul puisque cette nouvelle génération d'iPhone déboule à des tarifs légèrement moins. Alors ça c'est assez surprenant parce que Apple nous avait quand même habitué à augmenter régulièrement les tarifs, voilà, pour arriver à des sommes de zinzin, voilà. Et là non seulement ça n'augmente pas, mais limite ça diminue. Quoi ? Oui, voyons ça. Donc l'iPhone 15 classique, hein, le premier prix, avec écran de 6,1 pouces, commercialisé à partir du 22 septembre, c'est dans 9 jours, à 969 €. Moins de 1 000 €, mais c'est donné. Mais c'est donné. Donnez-moi-en 10. Donnez-moi-en 10, je redistribue autour de moi. Non, c'est super cher. Mais cette espèce d'inflation tous les ans, ben, cesse. C'est 50 € de moins que l'iPhone 14 de l'an dernier. Voilà. En revanche, après, ça grimpe pour les modèles Pro, hein, de 1229 à 1479 €. 1479 € pour ce prix-là, vous avez une version haut de gamme fabriquée dans une nouvelle matière, le titanium. Alors, quand j'ai vu ça, moi, je me dis, what ? Des iPhones en titane, quoi. Alors, c'est pas du titane. C'est titanium. En fait, c'est un aluminium 100% recyclé. Très résistant et plus léger. Voilà. On va parler des iPhone 12 dans un instant, parce qu'il y a un petit souci avec les iPhone 12. Voilà. 1400 €, t'as un PC gaming. Ouais, carrément. Et Vive the Globe, bien sûr. C'est cher, hein. Fink Jules, qui a un peu réfléchi au sujet, me dit que ouais, ils sont moins chers que l'an dernier, mais Apple a fait la pire erreur en mettant le processus de l'an dernier. Arnaque-moi si tu peux. Merci d'être avec tout ça. Reste quand même ultra cher pour ce que c'est. Ouais, c'est vrai, ça, je me rappelle ça. Da Silco dit, je pense à cette époque où il y avait un nouveau câble pour chaque portable qui sortait. On avait un seau de câbles à la maison qu'on gardait des années au cas où. Oh, ça rappelle tellement de souvenirs. Ouais, c'est pas trop grave, Moria, pour l'iPhone 12, mais on va en parler quand même. C'est pas trop grave, faut pas s'inquiéter, mais ça tombe bien parce que j'ai un iPhone 12, moi. Donc je suis très content d'ailleurs. Pour changer tous les ans. Hein. Alors, Henri Merveille dit non, c'est bien du titane. Ça permet de gagner 30 grammes. Alors, le Parisien dit que c'est pas du titane, que c'est de l'aluminium. Voilà, que le côté titanium, c'est un peu marketing. Bon, peut-être que le Parisien se trompe aussi. Hein. Mais a priori, non. Il y a Eiffling qui me demande, puisque j'ai un iPhone 12, si j'ai un troisième bras qui a poussé du coup à cause des ondes. Alors, pas un troisième bras qui m'a poussé, mais effectivement, il y a quelque chose qui a poussé. Mais c'est pas un troisième bras. Mais ça, je vous en parlerai une autre fois. Je ferai même un stream uniquement consacré à ce sujet. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire de quoi il s'agit. Je vous dirai une autre fois. Je suis en train de discuter avec un partenaire commercial pour sponsoriser ce stream. Voilà. À propos de ça. C'est pas grave, non. Rixal, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas gênant. C'est pas... Voilà. Mais voilà. Je vous en parlerai une autre fois. Zoomons un peu sur cette histoire d'iPhone 12. Là. Qu'est-ce que ça? Hombre, qu'est-ce que ça? L'iPhone 12. Il y a un petit souci avec l'iPhone 12. Qui a... Levez la main ceux qui ont un iPhone 12. J'ai un iPhone 12. iPhone 12, écrivain iPhone 12. 12 Pro, Silly Pop. Ouais, je pense que tu es concerné. Ouais. Jikoro concerné, Iki concerné, Adanel concerné, 12 Pro aussi. Putain, vous avez des sous, les gars. Hein. Ça s'achète du Pro par ici. Hein, hein, ça bosse. Hein. Redugi Pro, ok, le 12 aussi. Je vois un Team Android aussi. Je vois quelques Team Android. J'ai un 5SE. Sandeck. C'est Sandeck, c'est le pseudo. 12, Team 12, Type 12. Team, ok, alors, sachez qu'il y a un petit souci sur le 12. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'histoire que cette carabistouille? Alerte santé, je suis prêt à ordonner le rappel des iPhone 12 en circulation. C'est le ministre qui dit ça. Il y a le ministre qui veut nous confisquer nos iPhone 12. Jure. Jean-Noël Barrot, ministre chargé du numérique. C'est lui qui dit ça. Sir Jenki, merci pour le 22e mois, c'est adorable. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. Ah non, je suis à fond. On est là tous les jours. L'Agence nationale des fréquences a interdit ce mardi la... Ah oui, carrément. L'Agence nationale des fréquences a interdit ce mardi la vente d'iPhone 12 en raison de la trop forte puissance des ondes émises. Mais c'est vrai qu'un jour, j'ai cuit un œuf, moi, avec ce truc-là. Enfin bon. Si l'entreprise ne corrige pas ce défaut, ce qu'elle peut faire à distance, je suppose, petite mise à jour, le ministre chargé du numérique, donc M. Barrot, qu'on voit ici, là, c'est lui, annonce qu'il pourrait rappeler tous les modèles mis jusqu'à présent sur le marché français. Mais je veux pas rendre mon iPhone, moi, c'est quoi cette histoire? Question du Parisien. L'ANFR reproche à l'iPhone 12 d'émettre des ondes dangereuses. Qu'en est-il exactement? Répond du ministre. Dans le cadre de ses missions de surveillance des équipements radio, l'ANFR a donc engagé des tests de conformité téléphone, dont l'iPhone 12. Et ces tests, confirmés par un laboratoire indépendant, on démontrait qu'il présente un dépassement de débit d'absorption spécifique, le fameux DAS, c'est-à-dire une émission d'ondes électromagnétiques très légèrement supérieure au seuil autorisé. Est-ce que ça veut dire que ça va nous cuire le cerveau? Que si vous appelez côté gauche, vous avez le côté gauche du cerveau qui est cuit comme un steak, saisi, tu vois, ou alors côté droit, ou alors les deux si vous variez. Est-ce que... Non, a priori non. On va voir ça. Donc, très légèrement supérieur au seuil autorisé, l'ANFR a notifié à Apple sa décision de retrait de commercialisation de l'iPhone 12 en France et l'a mis en demeure de régler le problème, ce qui passe par une simple mise à jour du logiciel. L'entreprise américaine a 15 jours pour se mettre en conformité. Dis donc, ça... Dis donc, hein, Apple. Et si elle refuse, si Apple refuse, si Apple ne le fait pas, je suis prêt à ordonner le rappel des iPhone 12 en circulation. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que le ministre peut obliger à ce qu'on lui rende notre iPhone 12. C'est ça. La règle est la même pour tout le monde, y compris les géants du numérique. Quels sont les risques pour la santé? Alors là, on va voir que ce n'est pas si dangereux. La norme européenne est 10 fois inférieure au niveau des émissions qui, selon les études scientifiques, peut entraîner des conséquences pour les utilisateurs. Encore priori, tout va bien. Et dans ce cas précis, l'iPhone 12 ne dépasse que très légèrement. Mais en gros, on comprend que la règle est la règle. Est la règle, et ce n'est pas parce que c'est Apple qu'ils ne doivent pas se conformer à la loi. C'est plutôt ça, quoi. Vous en pensez quoi de cette histoire? Ah oui, alors what the fuck est d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on rend nos iPhone 12 et Apple nous enfile un 15. Un 15 Pro. Ah oui, je vote pour. Kemado Sandy, je comprends pas, les chiffres du DAS sont affichés à la vente, je comprends pas ce revirement de situation. Peut-être que le chiffre qui est affiché n'était pas le bon. Quelqu'un disait, mais peut-être qu'avec les mises à jour, Apple a augmenté le DAS à distance ces derniers temps. Je sais pas. Alors, Nijuel est un peu inquiet. Ils vont corriger d'un point de vue logiciel la puissance de l'antenne et vous capterez moins bien parce que le DAS, c'est ça aussi. Hein. C'est arrivé avec mon Xiaomi. Franz nous explique que le DAS des iPhones a toujours été plus élevé que la concurrence. Le 12, il est sorti il y a 3 ans. Choubi. Alors, au début de ce stream, quand on a fait le sommaire, on s'est dit, mais comment ça se fait? Comment se fait-il que 3 ans après, seulement, on s'en rende compte? Et ben, certains disaient, mais peut-être que les émissions de DAS ont évolué et que par des mises à jour, Apple les a boostées, je ne sais pas. Ou alors, les mesures sont intervenues 3 ans après la sortie du produit, ce qui est un petit peu plus embêtant. Parce que je crois comprendre que les DAS, en fait, sont données par le constructeur, quoi. Alors, Sizam Regel, je n'ai pas la réponse à ta question, mais qui était intéressante. Ça se passera comment si on doit rapporter les téléphones? Bah, en fait, alors c'est le ministre, j'imagine, hein, c'est fiction. C'est le ministre, M. Barrot, qui t'appelle, voilà, qui t'appelle avec son iPhone 12, parce qu'il a un iPhone 12 aussi, peut-être. Bonjour, monsieur, madame Sizam Regel, oui. C'est le ministre chargé du numérique, Jean-Noël Barrot, au téléphone. Voilà, évidemment, tu ne connais pas son nom puisque personne ne connaît, sans lui faire injure, personne ne connaît ce ministre jusqu'ici. Maintenant, on le connaît. Voilà. Et donc, je vous appelle parce que j'ai un petit souci avec votre iPhone 12 qui a trop de DAS. Voilà. Donc, il faut passer au ministère et on vous l'échange. Voilà, on vous l'échange contre un. Alors, on n'a pas beaucoup d'appareils disponibles. Parce que Apple n'a pas joué le jeu, donc on a des bons appareils bien costauds, le Nokia 3310, voilà, avec un petit jeu vidéo dedans hyper sympa, voilà, qu'on vous donne. Voilà. Et pour compenser, et une bourriche d'huîtres. Voilà. Donc ça peut se passer comme ça ou pas. On verra. Bizarre cette histoire. J'ai la ref. Il y a des risques, tant que ce n'est pas les ingénieurs de chez Volkswagen qui calculent les DAS. Petit clin d'œil à. Scandale des moteurs là, de chez Volkswagen là, qui cachaient la pollution là, avec leurs petits bras. Bon, à suivre cette histoire. À suivre. Bon, a priori, si vous avez un iPhone 12 comme moi, paniquez pas, c'est pas si grave, quoi. Allez. Et maintenant, pour terminer, parce que je suis tellement un gros gamer, un petit papier sur qui sont les salariés du jeu vidéo en France. C'est l'Humanité qui nous parle de ça. L'Humanité qui régulièrement, d'ailleurs, se penche sur les conditions de travail dans le secteur vidéoludique du jeu vidéo en France en disant « c'est pas ça, les gars, hein, les conditions de travail, les salaires, tout ça, les éditeurs, les studios, là, il va faire les efforts. Hein. » État des lieux, l'industrie vidéoludique en France n'a pas évolué, elle reste composée d'hommes, jeunes, et on va voir que c'est intéressant ça, et mal payés, nous dit l'Huma. À la demande du syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, puisque depuis quelques années il y a un syndicat, près d'un millier de salariés ont répondu à une soixantaine de questions. pour dresser un état des lieux précis du secteur dont voici d'où viennent les infos de l'UMA. L'employé type est un homme, 72%, waouh, on est loin de la parité, jeune, hein, 58% moins de 30 ans, hautement qualifié, 61% sont bac plus 5 et tout, ce qui est énorme. C'est pas une bonne nouvelle, dit Antoine, un des responsables du syndicat. Cela veut dire qu'on ne fait pas carrière dans le jeu vidéo, qu'après 5 ou 10 ans d'expérience, ceux qui peuvent s'en vont. Voilà. Alors, il y a Lloyd qui me demande quel est le prochain jeu vidéo qu'on stream dans Samplay. Alors, je vais te le dire, puisque pour l'instant, je ne suis pas un spécialiste et j'ai du mal à m'en souvenir, même si j'ai beaucoup de curiosité pour ce jeu. Je ne vous dis pas encore qui sera avec nous dimanche, mais je peux vous dire que nous allons jouer à... Comment ça s'appelle ? À Pong ! Voilà, Pong. Alors, voilà, mon invité, je ne sais pas ce que c'est, mais mon invité m'a dit que c'était super. Il m'a dit, attends, j'ai son message sous les yeux, tu vas être bluffé par les graphismes, c'est une dinguerie, tu vas en prendre plein la gueule. Pong. Ça a l'air bien. Voilà. Je lui fais confiance. Voilà. Voilà. Ah non ! Ah non, non. C'est un autre invité. Ah non, c'est Rocket League, pardon. Oh, j'adore le premier degré. Il y a 13 Chris qui dit « Mais Pong, ça fait 30 ans !» Non. Non, c'était une vanne nulle. Non, on joue à Rocket League. Voilà. Tout le monde m'avertit que j'allais être perdu et qu'il fallait des dizaines d'heures pour comprendre la manette et... Même pas peur. Voilà. Avec qui ? Suspense. Ouais. Si la vanne était nulle, bien sûr. La profondeur de gameplay de Pong est incroyable. On avait, c'est une blague. Alors, on revient à nos conditions de travail dans le secteur du jeu vidéo. Donc, moyenne d'âge très jeune, et Antoine, responsable du syndicat du STJV, dit ça veut dire qu'on ne fait pas carrière dans le jeu vidéo qu'après 5 ou 10 ans d'expérience, ceux qui le peuvent partent. C'est pas très très bon. L'industrie n'a en effet plus vraiment l'excuse de la jeunesse. Parmi les principaux employeurs français, vous avez une boîte comme Ubisoft qui fête bientôt ses 40 ans, vous avez une boîte comme Quantic Dream qui se rapproche de ses 30 années d'existence. Le secteur n'arrive pourtant pas, 1, à se féminiser, 2, à conserver ses travailleurs. Mais beaucoup partent. Car il y a une forme de plafond de verre sur les salaires. Ah, ça paye pas très bien. Voilà. Sans parler du fait qu'il faut supporter les conditions de travail et la quantité d'heures supplémentaires. D'une manière générale, cette industrie paye assez mal, constate un autre membre du syndicat qui s'appelle Tony Rubio, avec des travailleurs qui débutent souvent au SMIC, malgré leur qualification. Restent en majorité sous la barre des 2000 euros après 5 années d'expérience, et ce malgré des bacs plus 5 pour la plupart d'entre eux. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les game designers qui écrivent les règles du jeu, les contrôleurs qualité qui s'assurent que leur jeu remplit bien son cahier des charges sont parmi les postes qui se retrouvent dans une sorte de trappe à bas salaire. Hein, des métiers passion, exactement, Burabetsu. Ça exploite un max la passion des ingénieurs. Voilà. Hein, attends, c'est pas vraiment un métier. Ah non, c'est pas vraiment du travail. Attends, c'est que du kiff. C'est tellement bien et tout. Alors, en plus, t'es payé, quoi. Alors, t'es pas payé cher, mais c'est un métier passion. Voilà. Donc, t'es pas très bien payé. C'est ça ? Ouais. Lisa Suquet, merci beaucoup pour le prêt. Il y a aussi un vrai problème avec les formations, explique Antoine du syndicat. Il y a plus d'une centaine de formations en France. Beaucoup sont privées, coûtent parfois les yeux de la tête, forment beaucoup plus de travailleurs qu'il n'y a de postes disponibles. Le baromètre nous apprend ainsi que le coût moyen des études privées dans le secteur est de 25 000 euros, mais plus de 10% des répondants déclarent avoir dépensé plus de 40 000 euros sur l'ensemble de leur scolarité. Le baromètre, donc, qui est en fait un questionnaire qui a été rempli par près d'un millier de salariés, que je trouve donc, à mon avis, dont on peut... analyser les résultats avec intérêt. Le baromètre montre que, quoi qu'en dise le patronat du secteur, le crunch est toujours une pratique courante, hein, période de travail très intense qui implique généralement 2 heures ou plus de travail supplémentaire par jour. Un quart des travailleurs interrogés, hein, quand on arrive sur la finalisation d'un jeu, hein, c'est ça, hein. Un quart des travailleurs interrogés ont vécu un crunch l'an passé, pendant 2 à 12 semaines. Waouh. Il y a Neto qui dit « Je bosse dans le secteur du jeu vidéo depuis des ans. C'était mon rêve. Malheureusement, je confirme tout ce que dit cet article. » Pire, ces heures supplémentaires n'ont ni été rémunérées ni compensées. Ok, fiesta. Et si ce n'est au mieux, par un discours de... si ce n'est au mieux, par un discours de remerciement du patron. La chance! La chance! Alors merci les gars, les filles, enfin surtout les gars, puisque on vient de voir que le secteur est très peu féminisé. Merci la douce rageuse pour les bits. Oh, c'est trop gentil, merci pour le message. Et donc, vous imaginez les gars pendant plusieurs semaines qui ont tout donné, là, genre jour et nuit, pour que le jeu puisse sortir. Et vous avez le droit à un discours du patron, c'est la teuf. Tevaxi, merci beaucoup pour ce soutien, merci à toi. On comprend pourquoi les principales revendications des travailleurs de ce secteur portent sur les salaires et sur la semaine de 4 jours. Ça, c'est le regard de l'humanité, c'est le regard du syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo sur ce secteur. Je sais que certains d'entre vous connaissent bien ce milieu. Night Twinks, merci beaucoup pour le Prime. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, il y a Sitam qui me précise qu'après le discours, on a même parfois une bonne tape dans le dos du patron. À propos des formations, MDF me dit qu'il y a de très bonnes écoles publiques, donc c'est beaucoup moins cher bien sûr, mais du coup très sélective. Grace Stock depuis Corbeau, merci d'être avec nous, merci pour le sixième mois. Tiens, il y a Sakib qui est en train de finir ses études dans le jeu vidéo justement. Goff Sadden, merci pour le troisième mois d'abonnement, c'est adorable. Bisous Bac. Sakib, n'hésite pas à nous dire d'ailleurs comment sont passées tes études. Samantine dit, le problème dans la conscience collective française, c'est que le travail égale corvée, pénibilité. Et si tu prends du plaisir et que tu en fais ta passion, bah, c'est pas vraiment un travail. Bien sûr que c'est un travail. Bien sûr que c'est un travail. Je me demande s'ils ont le jeu gratos quand même, je sais pas. Kira confirme les propos de Luma sur le fait qu'il y a trop de gens qui sortent d'école et que du coup il n'y a pas assez de place. Alors arrêtez de plaindre ces pauvres salariés du secteur du jeu vidéo, hein, dit Katniss, ils ont certainement le baby-foot et les gâteaux salés gratuits. Hein. Intéressant. C'est quand même fou quand même, hein, qu'un secteur qui a, je sais pas, qui semble si bien marcher, qui semble produire tant de richesses, qu'on voyait le chiffre d'affaires mondial du secteur du jeu vidéo, c'est nous, et de voir les conditions de travail ici pour les salariés en France, c'est dur à comprendre quand même. Il y a France qui bosse en Allemagne depuis un an, les salaires sont 15% plus hauts dans tous les secteurs. Oui, Diesel, le stream se passe bien. On a lancé un stream à 7h du mat, ça n'a aucun sens, mais j'avais une journée folle de rendez-vous avec un premier taxi qui vient me chercher à 10h. Donc du coup, j'ai lancé à 7h pour quand même être avec vous ce matin et ne pas faire l'impasse sur ce stream. Il y a Axe Onigami qui dit que l'un des problèmes, c'est l'ultra concurrence dans le secteur. Il y a Sakib, justement, qui me parle de ses... Oh là là, de ses études, c'est chaud là. Oh là là. Donc Sakib qui nous dit qu'il venait de finir ses études dans ce milieu, qui nous dit j'ai fait un bachelor game design à l'école de design Nantes Atlantique et pour être honnête, on a été laissé à l'abandon. Classe même pas remplie. Preuve qui démissionne. Les autres filières qui ne savent pas qu'on existe. Waouh. Le pire, ça reste leur passivité face à nos plaintes et nos demandes d'aide pour les stages, les événements professionnels. Ouh, la vache. C'est pas terrible, ça. Voilà la petite page de pub que tu viens de faire à l'école, là. Alors, il y a Néo qui dit « J'aime bien cet horaire, ça me permet de voir le live avant le taf et pas en replay. » Ouais, c'est bien, mais ça... Disons que, du coup, ça me fait me lever à 3h au lieu de 5h. Et si j'ai arrêté la matinale de France Info, c'était un peu pour se dormir plus, alors... J'aime bien, hein, mais pff, c'est chaud, quoi. Noël 54, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Goff 102 ou 101 ou 101, merci beaucoup pour le troisième mois. Mais je t'ai remercié tout à l'heure. Bon. Horoscope. Ah, j'aime vous endormir, vous. Vous endormir de paroles, vous bercer du doux voix, du doux son de ma voix, voilà, pour ne vous faire oublier qu'à un moment, à la fin de ce stream, il y a un horoscope. Voilà, je vous explique pour ceux qui sont là pour la première fois. Quand on arrive, comme ici, sur la page horoscope du Parisien, c'est à droite ici, eh bien, la plus rapide qui me donne son signe astrologique sans faute d'orthographe. Je lui lis son signe, ça n'a aucun sens, on n'y croit pas, ça n'est pas scientifique. Mais ça nous fait marrer. Donc, j'ai... Oh, ça me fait plaisir en plus parce que c'est un artiste que j'adore. J'ai l'insigne honneur de vous annoncer que dans mon chat, le vainqueur de ce concours de rapidité de l'horoscope sur la chaîne Twitch Samuel Etienne, dans le petit déjeuner Etienne ce matin, c'est Bélier. Et c'est Abdalmalik67. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le chanteur, l'artiste Abdalmalik, le vrai de vrai, mais que j'adore, qui a gagné ce concours. J'espère que les modos vous confirmez, je ne me suis pas trompé. Donc Bélier, qui est aussi le signe de mon épouse, donc ça m'intéresse encore plus. Quelle va être la journée d'Hélène? Est-ce qu'elle va être marquée par l'amour? Par la passion, idéalement vers moi? Tout ça. Let's go. Tatourak, joli pseudo, merci pour le cinquième mois d'abonnement. Bélier. Disait ça. Bélier, cœur, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le cœur, littéralement, de mon amoureuse aujourd'hui? Célibataire, votre vie sentimentale n'a que peu de chances de prendre une tournure stable. Mais je m'en fous, elle n'est pas célibataire, Hélène. Mais non, c'est nul. Célibataire, votre vie sentimentale n'a que peu de chances de prendre une tournure stable. Bon, si vous êtes célibataire Bélier, c'est pas super. Si vous êtes en couple, eh ben, allez vous faire foutre, hein, c'est ce que nous dit le Parisien. Putain, vous faites chier le Parisien, hein. Nul. Ils sont nuls. Réussite. Les relations avec l'étranger présenteront quelques difficultés. Ah bah, Hélène, elle travaille dans un groupe où elle peut être amenée à parler avec l'étranger. Ok, je veux dire. Forme, douleur articulaire. Mais non, c'est que de la connerie. C'est que, pardon, passez-moi l'expression. J'espère qu'il n'y a pas d'enfant. Normalement, vous êtes à l'école. C'est de la merde. Hélène, elle est en pleine forme. Elle n'a pas de douleurs articulaires. C'est n'importe quoi, cet horoscope. N'importe quoi. Hein? Rembourser le Parisien, exactement. Qu'est-ce que c'est? Pas terrible l'horoscope. Tiens, je vais essayer de vous trouver un bel horoscope pour compenser quand même. Tiens, le mien. Cœur. Vous aurez le cœur en fait, c'est moi ça. Moi j'ai le cœur en fait. Et une facilité à communiquer avec les enfants. Super. Ça me plaît. Réussite, vous aurez davantage de latitude pour exprimer votre créativité. Tu m'étonnes. Je fais ce que je veux sur Twitch. Alors n'hésitez pas. Forme bonne. Ok, super. J'ai dormi 3 heures, j'ai 15 rendez-vous, assez important en fait pour la suite de mon année, la suite de ma carrière, pour même mes cotisations retraite. Est-ce que je serai abandonné seul à la rue avec des dents qui tombent dans quelques années quand arrivera le temps de la retraite, ou est-ce que je vais réussir à cotiser encore quelques années pour me mettre à l'abri des frimas? Eh bien, je le saurai peut-être à l'issue de cette journée. Blague à part, j'ai plein de rendez-vous de fou. Regardez pas, hein. Mon agenda électronique, parce que je suis à la pointe de la pointe. Donc, 10h, j'ai un taxi qui m'emmène pour participer à Level 1, l'émission avec Marcus et Julien Toulouc. On va parler de jeux vidéo, parce que tellement un grand expert. Maintenant, à 13h, j'ai un déjeuner à France Télévisions pour parler de jeux télé. À 15h, j'ai un rendez-vous avec France Télévisions pour parler de Twitch. Et à 16h, j'ai un rendez-vous encore avec la direction des programmes France Télévisions pour parler de jeux télé. Voilà. Pff, la journée, quoi. La journée. Ouais. Ouais, écran souple et tout. Ouais. C'est, voilà. C'est un iPhone. C'est pas iPhone. C'est un iPhone. C'est fait ailleurs. C'est pas le même truc. Par contre, il n'y a pas de problème de radiation. Voilà. Hop. Oreille droite, oreille gauche, les yeux. Là, vous pouvez même le mettre là. Voilà, si vous avez un bon équilibre, impeccable. Moi, j'ai jamais eu de problème. Oui, tactile, ouais. Tactile avec un crayon. Ouais, pliable. Pliable, ouais. Pliable, ouais. Ouais. Batterie limitée, ouais. Ah, vous connaissez ce modèle? Ouais. Ouais, Level 1, c'est bien, ouais. T'as fait... Tu fais un... Ouais, je fais un Level 1. J'ai découvert Marcus quand j'avais 10 ans, ça date de plus de 20 ans cette émission, bah, elle est toujours là, le guitariste. Voilà. C'est un Nifeuil. Combien de DAS ? Ah, bah, je vais voir. Ils disent 0, mais moi, à vérifier, on ne sait jamais. Faut retourner te coucher, beau gosse. Mais non. Mais non, mais non, j'ai plein de rendez-vous super importants. Les amis, mille merci. C'était vraiment hyper sympa. Je n'avais jamais lancé de stream de matinée Étienne, que j'ai rebaptisé le petit déjeuner Étienne d'ailleurs, à 7h. Jamais. Voilà. En ce moment, quand je vois que je ne peux pas streamer, je cherche une solution. Hein. Parfois, je ne peux pas streamer le matin entre 9h et midi. On stream le soir. Parfois, je ne peux pas streamer entre 9h et midi. On stream très tôt le matin. Voilà, je suis à fond. Je suis en mode machine. Par ailleurs, je vous rappelle que jeudi à 20h, je participe au grand quiz de Jiraya, l'ami Jiraya, sur sa chaîne Twitch. Voilà. Grand quiz, je suis allié en duo avec Jean Massier. Et on va rabattre le caquet un petit peu de ce jeune coq étoile qui sur Twitter a dit qu'il allait nous massacrer. Donc j'en fais une histoire personnelle. 20h, jeudi, on sera le 14, c'est ça? Je vérifie. Sur la chaîne de Jiraya. Ouais, c'est ça. On se retrouve demain matin, horaires normaux, genre 9h midi pour l'hebdo Étienne. On se retrouve vendredi soir, pour la matinée Étienne. Vendredi soir avec 4 invités pour revenir sur l'actualité de la semaine. Sur l'hebdo Étienne, on va se régaler. Il y a notamment Alex Vizorek, on va se régaler. Et on se retrouve dimanche soir pour Ça me plaît avec un... Bon, le jeu, vous l'avez. Quant au streamer, je vous le dis bientôt. Par contre, je vais poster aujourd'hui le visuel concernant l'émission de vendredi. Hein. Les invités, Damos, dans quelques minutes, comme j'ai un quart d'heure avant mon taxi, je vais le poster ce matin. Donc ça, tu sauras tout. J'ai fait un petit visuel avec mes petits doigts. Voilà. Oh là là, chacun me demande son petit horaire. Ah, Alexandra me dit, ah, 8h30 demain serait mieux pour moi et tout. Je vais voir. Voilà. Merci les amis. Allez, c'est pas fini, hein. Hop, la tablette, je la range, mais on va faire un petit raid, bien sûr. Proposez-moi des noms de streameuses qui sont en live actuellement et qu'on va les soutenir avec notre petit raid du matin. Voilà, hop. Je vous mets 2 minutes de musique. On va remettre la musique de tout à l'heure. Et dans 2 minutes, on raid tous ensemble une chaîne que vous allez me proposer. À tout de suite. J'aime bien cette musique, je vous la remets. Elle est belle, elle est douce. À tout de suite pour le raid.
J'adore cette chanson, Man of the World. C'est le titre, la destination est toute trouvée. En fait, c'était très compliqué de choisir l'horaire parce qu'il n'y a que des copains qui sont en live actuellement. Joe Coco est en live, m'a-t-on dit. Pépin est en live, m'a-t-on dit. Tonton, que je veux absolument rater cette semaine, est en live. Impossible à choisir. Sauf qu'il y a Jean. Il y a Jean Massier qui est tombé du lit aussi, qui stream un discours, si je ne dis pas de bêtises, de Ursula von der Leyen, qui est la patronne de la Commission européenne, qui est actuellement en live. Le Jean, je le raide, le Jean. Je le raide, il est venu non, il n'y a pas longtemps dans l'hebdo Étienne. Faites coucou à Jean et Ursula. Dites bonjour Ursula. Dites bonjour Ursula à Jean. On se retrouve demain matin. Je vous souhaite une belle journée. Soyez heureux. Rendez les autres heureux autour de vous. Merci pour ce matin, pour nos échanges, pour vos soutiens. À demain matin. C'est le discours sur l'état de l'Union. C'est assez intéressant. Ciao, ciao. Je lance le raid. Demain. Bonjour Ursula.